Cette semaine sur InPower, j'accueille Eva Sadoun. Je vous préviens, j'admire beaucoup cette femme. Réussir à mêler entrepreneuriat, impact positif social et environnemental et repenser notre système économique, ce n'est pas une mince affaire. Pourtant, ce n'est pas ce qui effraie Eva, qui verrait un bien plus grand risque à ne pas agir plutôt que d'essayer de faire bouger les choses. L'ambition d'Eva est grande, transformer intégralement le monde de la finance. Et Eva se donne les moyens de son ambition. Après avoir levé au total plus de 100 millions d'euros avec sa première boîte, Lita, elle a récemment créé une nouvelle entreprise, Rift, une app qui vous permet de savoir pour quel projet votre banque utilise votre argent. Dans cet épisode, on parle de réussite, d'échecs, de changement de parcours, de syndrome de l'imposteur et d'écoféminisme. Bref, un programme bien rempli qui, j'espère, vous plaira. Si c'est le cas, pensez à envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait intéresser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva Sadoun. On continue du coup le débat qu'on a entamé avec Eva et après, bien sûr, elle se présentera. Mais on parlait de la Coupe du Monde au Qatar et d'à quel point, en fait, nos convictions ont été ébranlées par l'effet de groupe, par l'effet de masse. Et en fait, on questionnait du coup le poids de nos valeurs et de nos convictions face à notamment un argument qui d'ailleurs, et il revient souvent dans l'écologie, je ne sais pas si toi aussi on te le dit, mais moi quand j'échange parfois avec des gens, c'est en fait, qu'est-ce que ça change si moi, je regarde la Coupe du Monde ou si moi, je prends l'avion ? Et qui est un argument compliqué parce que oui, dans les faits, bien sûr, toi, petit être humain parmi 7-8 milliards d'humains, tu ne fais pas la différence en soi, mais si chacun pense comme toi, alors la différence ne pourra jamais se faire.
Alors sur ce point-là, moi, c'est particulier parce que vu que je porte un plaidoyer vraiment de transformation du secteur économique et d'ailleurs même sur la question de l'impact carbone, moi, je vois l'impact carbone en individu que par le prisme de ses actifs financiers, donc par le pouvoir qu'il a de transformer le système et non pas l'impact carbone individuel. Si vraiment je te donnais la vision claire de la manière dont j'entrevois les transformations possibles, elles sont pour moi par le pouvoir en place et non pas nécessairement par l'individu. Après, c'est essentiel par contre de commencer à adopter des comportements écologiques, notamment pour être capable déjà de se préparer. Parce que le monde écologique de demain ne sera pas le monde actuel. Et si on veut que la transition ne soit pas trop brutale, il faut commencer à adopter des comportements et s'y préparer. Et surtout, il faut être capable de montrer l'exemple et de donner l'impression que ce monde-là, au-delà d'y être prêt, on l'anticipe pour que notamment le secteur économique et le secteur politique puissent adopter sa manière de faire. Parce qu'on a souvent l'impression que le secteur politique doit venir en amont, doit préparer les révolutions en amont, alors que souvent dans l'histoire, finalement, il a toujours suivi, il a toujours été le dernier wagon du train d'une révolution qui avait déjà été entreprise. Et cette révolution, elle doit se faire par les comportements individuels en parallèle, je veux dire, des comportements économiques, etc.
Ok, bon, on va parler de tout ça, on va parler d'économie, d'écologie, vous l'avez compris. Écoute, Eva, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Ok, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, on a été vite, mais merci, je trouve ça super de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui. Donc moi, je suis entrepreneuse. Je dirais que je suis économiste sans doctorat. Donc j'écris j'ai écrit un ouvrage, j'en écris un nouveau sur la pensée économique et comment elle doit changer. Et je vais dire aussi que je suis militante parce que c'est toujours perçu comme quelque chose d'autonome d'être militant, alors que je pense qu'on devrait être militant dans nos actions en perpétuel, mais en tout cas, voilà, je me perçois aussi aujourd'hui comme militante parce que je vais avoir des actions aussi d'activiste au quotidien qui ne sont pas nécessairement liées à mon activité d'entrepreneur ni à mon activité de penseuse, on dirait.
Est-ce que c'est difficile pour toi de faire l'équilibre entre ces différentes activités ? Enfin, est-ce que, par exemple, tu n'as pas peur parfois que tes actions de militante aient un impact négatif sur tes entreprises ?
Ah, tout le temps. Bah, tout le temps, en fait. Mais pour moi, c'est impossible de faire autrement. C'est comme ça que je me rassure. C'est que je me dis, est-ce que tu pourrais, par exemple, mener un plaidoyer qui est vraiment que lié à ton entreprise, porter ta marque, comme beaucoup d'entrepreneuses le font, hein. Elles incarnent vraiment leur marque et tout ce qu'elles portent, c'est autour de leur marque. Moi, ce serait un peu, pour moi, aller à l'encontre même de mes valeurs, de voir même comme un objet marketing de mon entreprise. Moi, la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est-à-dire j'entreprends, je milite, j'écris, etc., c'est pour transformer le système économique. C'est pas pour poursuivre des intérêts individuels. C'est une vision vraiment transformatrice du monde dans lequel on vit. Donc c'est mon éthique qui me permet de me rassurer. Et au final, je pense que ça aide l'entreprise à se développer, parce que ça montre, parce que les gens n'en peuvent plus en fait, vraiment même du marketing, ils sont victimes de greenwashing tout le temps, donc de voir une patronne d'entreprise porter ses propres idées et non pas les idées de sa marque, bah, ça renforce même le positionnement et la crédibilité de ce qu'on fait au quotidien et ça nous permet même d'évoluer et de toujours s'améliorer en tant que boîte. Donc voilà, et puis après, si j'arrive à faire tout ça aussi, c'est parce que bah, j'ai une équipe de ouf dans l'entreprise. Mon militantisme, il est aussi porté par un syndicat que je préside, et j'arrive moi juste à être un peu celle qui enclenche les nouvelles dynamiques.
Et d'où est venue cette passion pour l'économie? Parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, tu vois, quand on est ado. Alors j'ai lu aussi que tu avais fait une crise existentielle un peu ado, enfin c'est ce que j'ai lu. Alors après, la différence entre le storytelling et la vérité, tu nous la raconteras, parce qu'ici on veut du vrai. Mais voilà, c'est vrai que je me suis interrogée pour avoir fait de l'économie moi-même pendant mes études. C'est vrai que c'est intéressant, mais ça passionne peu de gens, notamment quand, comme dans ton cas, tu le critiques, tu le dénonces. Et tu souhaites proposer une alternative.
Alors, ça vient pas tout seul, hein, la passion pour l'économie. On va dire que quand j'étais plus jeune, plus passionnée par la pensée. J'ai fait des études talmudiques. Le Talmud, c'est l'étude du texte, c'est en hébreu. Et d'accord. C'est des études de culture spirituelle juive.
D'accord.
Et c'est des cours que je prenais tous les dimanches matin de mes 6 ans à mes 13 ans jusqu'au moment de ma bat mitzvah, l'équivalent de la communion. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a la même chose d'ailleurs dans l'islam, je ne crois pas. Donc ces études-là, elles m'ont permis de me questionner. Ce qu'on fait en fait pendant le Talmud Torah, donc l'étude de la Torah, l'étude du texte, c'est de se poser des questions sur le sens de la vie. C'est vraiment de la métaphysique pure. On ne répond pas toujours aux questions, parfois on y répond, surtout on commente, on parle, etc. Et donc ça m'a sensibilisée très tôt à me poser la question du sens de ma vie en fait sur Terre. Je pense que c'est ça, mêlé au fait que j'étais extrêmement sensible, hypersensible quand j'étais jeune. Je suis toujours, je le canalise mieux aujourd'hui et j'en fais quelque chose de moins destructeur, entre guillemets, je dirais. Ce qui a fait que j'étais obligée de trouver le sens de mon existence. Donc ça a commencé par la musique. Donc j'ai fait beaucoup de musique, j'ai joué dans des groupes, j'ai chanté, j'ai fait des concerts, etc. Ensuite, je me suis intéressée beaucoup à la politique. Donc je faisais pas mal de militantisme quand j'étais jeune, au lycée, etc. Et en fait, j'ai réalisé que ces leviers ne me permettraient pas vraiment de voir l'effet ou la marque de mon changement sur le monde. Et surtout, je me suis un peu... j'ai fait une crise d'ado, hein, comme beaucoup. Hein. Bon, j'étais très, très bonne en maths, bonne élève jusqu'à mes 13-14 ans. Puis j'ai complètement craqué, j'ai fait de la musique, j'ai commencé à sécher les cours, à me désintéresser. Globalement, j'étais pas très... Même si j'étais forte, j'avais des aptitudes en maths qui m'a permis d'avoir cette vie aujourd'hui. Et ça fait partie de mon privilège, je dirais. J'étais pas très à l'aise et très heureuse dans le cadre de l'éducation nationale traditionnelle. Alors, au Talmud Torah, on m'apprenait à poser des questions. Et dès que je posais une question en classe, c'était vu comme quelque chose de dissipé. Donc ça m'a vraiment oppressée. On va dire le système éducatif. Donc à partir du moment où j'ai eu cette passion pour la musique, j'ai arrêté un peu de m'y intéresser, jusqu'à carrément avoir mon bac au rattrapage, ce qui était un peu un choc, parce que j'avais quand même cette vision que bon, vu que j'étais une bonne élève, j'y arriverais, je me débrouillerais, et j'ai réalisé que non. Ça m'a fait très peur, et je pense que c'est cette peur qui m'a amenée à me poser la question de comment je pourrais allier cette passion, cette volonté d'avoir une réponse au sens de la vie, cette spiritualité, etc., cette créativité, avec quelque chose qui me protégerait. Parce que même si j'étais un peu plus un tempérament artiste quand j'étais jeune, je viens d'une famille immigrée d'Afrique du Nord qui ont évolué dans la pauvreté, qui ont pu devenir médecins, donc qui ont pu arriver
à un ascenseur social, vraiment, ouais.
Qui sont des transfuges de classe, exactement, qui ont eu un ascenseur social fort, mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas de patrimoine et que c'était pas leur situation me permettrait de faire des études, mais pas de pouvoir vivre sans gagner ma vie. Donc il fallait que je réussisse à mêler cette créativité et aussi un cadre. J'ai eu, je ne sais pas, grâce à mes notes de maths, accès à une prépa normale sup en économie. Et j'avoue, j'y suis allée un peu par hasard. Après... C'est sûr que ce que je raconte tous les jours dans les interviews, etc., sur la crise financière qui m'a marquée, etc., c'est une réalité. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai accepté d'intégrer cette prépa économique. Mais quand j'ai vu ce cataclysme de la crise financière, ça m'a marqué, mais ça ne m'a pas passionné tout de suite. C'est quand j'ai intégré cette prépa Normale Sup en économie que, en fait, grâce à ces études-là, j'ai compris à quel point l'économie forgeait les manières de vivre. Et que finalement, si on voulait avoir un impact sur la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, bah, c'était par l'économie. Et ça, ça m'a vraiment marqué. C'est grâce à cette prépa que j'ai pris cette conscience de ça.
Donc, tu as, pour toi, on peut avoir un impact plus fort par le prisme économique que politique ?
Absolument. Bah, pour moi, le politique, et d'ailleurs, j'en avais l'intuition il y a 15 ans, et là, aujourd'hui, j'en ai la conviction en travaillant proche du politique. Le politique, c'est... voilà, moi, je trouve vraiment le dernier wagon du train. C'est celui qui arrive après... que les mouvements sociaux aient porté une vision et qui ait été adoptée et acceptée par un milieu économique. Ensuite, le politique va réguler, à part dans le cas de certains politiques supra-progressistes, en avance de phase, etc., mais ça fait déjà plus de, je ne sais pas combien de temps en France, en tout cas très longtemps, qu'on n'en a pas vu au pouvoir. Donc il faut un petit peu accepter le fait que nos politiques ne seront que le reflet de la société et qu'il faut transformer la société. Et la société, elle fonctionne selon la manière dont l'économie fonctionne. Donc oui, je pense que l'économie est le levier le plus fort de transformation.
Et c'est intéressant, quand je t'écoute, moi aussi je suis assez convaincue que ça, mais c'est presque par dépit. Je trouve qu'au bout de la politique, tu vois, c'est parce qu'on a l'impression qu'au final, on ne sera pas aussi utile qu'on aimerait l'être. Mais du coup, je me demande, toi qui as cette vision transformatrice du secteur de l'économie, t'aurais pu te dire, en fait, transformons la politique parce que, en fait, tu vois, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut la réinventer, il faut quelqu'un qui, un peu comme tu es en train de le faire dans le monde de la finance, arrive et dise. Écoutez, là, ça va plus du tout. Vous ne servez à rien.
Bien sûr. Franchement, je me suis posé la question. Hein. Et il y a même encore 2 ans, je me demandais si mon avenir n'était pas dans le milieu politique, parce qu'en ayant une vision aussi macroéconomique, le lieu de l'entreprise n'était peut-être pas suffisant. Et au final, le monde politique, il est tellement exposé que c'est très compliqué de changer. Alors que le monde économique, on peut essayer de... faire des expérimentations à petite échelle, c'est tester vrai. À plus grande échelle. Le milieu politique, la politique nationale, hein, après la politique régionale, etc., c'est autre chose, mais la politique nationale, celle qui régule, celle qui construit les lois, etc., aujourd'hui, elle est un petit peu... Elle est en fait opprimée par plein de choses, notamment le milieu économique, parce qu'elle a peur de déstabiliser l'économie. La politique, elle a peur aussi de déstabiliser l'opinion publique. Elle est très exposée à l'opinion publique en permanence, elle doit constamment justifier, etc.
Il n'y a pas le droit à l'erreur, en fait.
Pas le droit à l'erreur. Et ça, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me stresse au plus haut point qui ne fonctionne pas avec un tempérament qui, malgré tout, mon tempérament est entrepreneurial, quel que soit ce que je fais, c'est mon tempérament entrepreneurial, c'est-à-dire que je teste, j'expérimente, je doute, etc. Et le milieu politique n'autorise pas ça. Après, ça n'empêche que je travaille quand même au quotidien aujourd'hui avec le monde politique, parce que sans eux, on n'arrivera pas à transformer le système. Mais j'essaie d'avoir un travail de lobby extérieur, de faire utiliser la pression.
Oui, tu influences indirectement beaucoup le milieu politique, finalement.
Voilà, et je pense que je suis plus efficace, en tout cas comme ça aujourd'hui.
Donc du coup, tu fais tes études dans le milieu de l'économie, je crois près d'une école de commerce.
Ouais.
Et, quand est-ce que tu te dis que, en fait, tu ne vas pas avoir un job dans une entreprise et que tu vas tout de suite, dès la sortie de tes études, monter ta boîte?
Alors, je suis entrée dans une école de commerce un peu par dépit parce que j'ai raté l'oral de normal.
Alors, dis-nous comment tu l'as vécu. Moi, j'adore m'attarder sur... Non, parce que c'est très dur, en fait.
Ouais, c'est très
dur. Quand tu bosses énormément pour un concours, j'imagine qu'en plus, tu idéalises presque l'école qu'il y a derrière. Comment tu vis ce moment-là?
C'était super dur parce que, ayant eu mon bac au rattrapage, j'avais déjà connu une grosse désillusion.
Ouais.
Et j'ai eu... la prépa normale, une forme de passion pour l'économie, ses concepts, etc., la recherche, ce qu'on pouvait même en faire en termes de sciences politiques, etc. Donc, en fait, de rater l'oral de normal, c'est pour moi quelque chose qui me ramenait un peu à un complexe d'enfant, venant d'un milieu, d'un point de vue culturel, pas nécessairement à la hauteur des standards de l'élite française, on va dire. Voilà, on m'a pas mis un bouquin entre les mains. J'ai fait des études de philo ensuite, bah, beaucoup plus tard. Enfin, je veux dire, je me sentais pas très érudit. Je me sentais toujours un peu même sous-valorisée par rapport à mes camarades dans toutes les langues, le français, etc. Voilà, parce que c'était, voilà, on n'avait pas nécessairement beaucoup d'apprentissage de culture générale, d'élocution, voilà. Donc le fait de rater normal, ça m'a, alors que pourtant je faisais partie des meilleurs de ma prépa, ça m'a un peu choquée, et notamment à l'oral. Mmh. Parce qu'il y a eu vraiment, pour moi, l'oral de normal, c'était avec le patron du coup de Normal Sup à Cachan, je l'ai vécu comme comme vraiment une bataille culturelle. C'est-à-dire que lui utilisait des concepts un peu pour me déstabiliser, hyper pointus, qui n'étaient pas nécessairement au programme, et un peu pour... Et je me suis sentie...
discriminée.
La juive arabe de service. Voilà. Mmh. Vraiment, je me suis sentie discriminée. Et pas accompagnée. Après, c'est pas de sa faute. Je pense que c'est l'enseignement élitiste qui veut ça. Il essaie peut-être de me pousser dans mes retranchements. Mais voilà, le fait de le rater comme ça, et surtout de rater l'école juste pour cet oral, j'ai trouvé ça un peu violent.
Et injuste.
Et injuste. Mmh. Alors que j'avais le niveau plus que d'autres en économie, en maths, etc., j'avais réussi le concours, et pour moi, c'est... finalement, les maths, on voit souvent ça comme quelque chose de très discriminant, justement, pour l'apprentissage, l'élite, etc. Moi, je le voyais justement comme quelque chose qui était universel.
Oui, c'est vrai, je trouve aussi. Voilà. C'est pas des codes, c'est pas... tu peux pas tellement l'acquérir par la culture, quoi.
C'est ça.
Mais d'un autre côté, en fait, je pense que toutes les formes de compétences, de facilité, sont plus ou moins discriminantes. Parce
absolument.
Que, après, moi, je le vois comme ça, mais les maths, c'est un peu... T'as le cerveau mathématique ou tu l'as pas, tu vois. C'est assez rare de se découvrir sur le tard une passion pour les maths, tu vois.
Non, c'est vrai, mais c'est moins violent.
Oui, c'est plus équitable que, en effet, je pense, la philosophie ou la langue française, où c'est beaucoup, est-ce que t'as lu quand t'étais enfant, est-ce qu'on t'a amené voir différentes expos. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus de culture que juste de compétences.
Voilà, et c'est quelque chose qui s'acquiert avec sur le long terme, quoi, qui s'acquiert plus tard, etc. Et j'ai dit une phrase, en fait, j'étais très énervée. Bon, j'étais très révoltée quand j'étais
pendant
jeune.
L'oral,
hein. Pendant l'oral. Pendant l'oral, c'est ça qui m'a fait rater. Il m'énervait tellement. Et il a tellement questionné mon projet. À l'époque, je voulais vraiment bosser sur l'aide sociale, l'aide au développement. C'était la manière la plus simple pour moi de créer une économie durable. C'est vraiment l'aide au développement. C'était un peu à l'ancienne, on va dire. Mais il me critiquait. Il disait que c'était de l'aide ambulancière. Le travail des ONG aujourd'hui, c'était purement ambulancier. Ça ne questionnait pas réellement les fondamentaux, des rapports de classe, etc. Je lui ai dit OK, mais en tout cas, c'est facile de penser le ventre plein. Et je lui ai dit ça. Alors là, ça l'a... Bon, j'étais jeune, c'est un peu con de dire
non,
ça, mais...
en même temps, moi, je trouve pas que tu devrais être discriminée pour ça. C'est vrai ce que t'as dit. En plus, c'est même pas une attaque personnelle. Je veux dire, ça aurait pu être général.
Dans l'absolu,
Et donc, en fait, c'est quand même assez terrible que les jurys ne fassent pas la part des choses et ne se disent pas qu'en fait, c'est une réflexion pertinente et qu'ils le prennent personnellement, quoi.
Bah ouais, je saurais jamais s'il l'a pris personnellement ou si en fait il a trouvé que le reste de mon entretien était nul à chier. Mais en tout cas, effectivement, c'était dommage qu'on puisse pas rentrer dans un débat un peu plus rationnel.
Ouais.
Mais au final.
Comment tu le vis là? Pas maintenant, sur le moment. Tu le sais combien de temps après que t'es pas admise?
Je le sais peut-être une semaine ou deux après.
Ah oui, très rapide.
C'est assez rapide, okay. C'est l'oral. Je vois que je suis pas dans la liste, que d'autres de mes copains y sont. C'était horrible. Je sais que je l'ai dit à une amie, d'ailleurs, ça me fait autant de peine qu'une relation amoureuse. Parce que moi, j'ai mis tellement dans... Enfin, j'ai toujours priorisé. En tout cas, c'est ce qui m'a toujours plus touchée dans la vie. Mes réussites professionnelles, académiques, etc. Plus que mes problèmes
perso,
intimes.
Ouais.
Ça me perturbe beaucoup moins.
Ouais.
Que c'était pour moi une peine de cœur, quoi.
et là, c'était quand? C'était en juin, en septembre?
Alors ça, c'est...
Tu peux rebondir, quoi, derrière? T'avais un plan B?
Oui, et ben du coup, je cours rebondir. C'était en juin, et je crois que j'avais déjà commencé... Non, je commence, du coup, deux jours après, mon plan B, qui était, du coup, les entretiens pour les grandes écoles.
D'accord.
Les oraux pour les grandes écoles de commerce.
Donc, t'avais quand même passé le... Je sais plus comment ça s'appelle, Tajmaj, non?
Non, c'est juste, en fait, l'admissibilité à Normalsup qui permet d'intégrer, en fait, une école de commerce... de l'UM Lyon, donc en... le plus haut c'est l'UM Lyon, jusqu'à
d'autres écoles. D'autres d'accord, écoles. Ok. Ah d'accord, ok, intéressant, ouais. Je savais pas du tout. Okay.
Voilà. Donc, moi non plus, et heureusement.
T'as pas passé le concours pour rien, quoi.
Voilà, mais heureusement, ouais, parce que ouais. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je voulais pas passer. Pour moi, j'allais retaper, faire de la macroéconomie à la Sorbonne, et pas du tout me lancer dans des écoles commerciales. Je savais même pas ce que c'était, pour être tout à fait honnête. Donc, je débarque dans ce monde des business schools françaises très américanisées, etc. Ça me surprend beaucoup, je vois tout le monde en costard.
C'est ça que c'est pas pareil qu'une prépa ENS. Hein.
Ah ouais, non, mais rien à voir.
Ouais, ouais. Ils visent pas la même chose.
Non, et maintenant, pour moi, ça me semble normal, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais arrivée en Doc Martens avec un pantalon en carreau et tout le monde était en costume et j'avais pas du tout été préparée en fait à ces entretiens. Donc c'est très déstabilisant pour moi ces entretiens. Eux-mêmes d'ailleurs, les jurés, bon, ils ont l'habitude des élèves de normale ou prépa BL, Cagne Pocagne, etc., qui viennent passer les oraux, mais. Même ils te disent, bon, je sais pas vraiment pourquoi tu es là, on va pas vraiment t'aider. Et donc je passe tous ces oraux. Au final, il se trouve que j'ai accès du coup à l'UM Lyon et au Dancia. Je sais pas pourquoi ils m'ont accepté. Donc les deux écoles les plus hautes dans le classement. Je choisis de faire au Dancia parce que je vois qu'ils ont quelque chose dans l'économie du développement. Et je sais plus quel responsable de programme de l'UM Lyon m'appelle pour me dire, non mais c'est n'importe quoi, vous avez accepté quoi du coup? Je lui dis, bah l'eau d'Ancia. Me fait, mais c'est beaucoup moins bien. Pour te dire à quel point je savais même pas comment fonctionnait ce système des grandes écoles avec ses classements, etc. Alors que tous les autres étaient complètement formés, biberonnés à ça, quoi.
Presque, hein. Ouais.
Matrixés. Et elle me dit, mais vous savez, l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi à l'UM Lyon. Et je dis, c'est quoi l'entrepreneuriat social? Et c'est là qu'en fait, c'est grâce à mon échange avec cette dame, que derrière, je me suis informée, j'ai lu. Alors, je lisais que des économistes plutôt. Et là, je me suis mis à lire Mohamed Younous et toutes ces personnes qui utilisent l'entrepreneuriat pour répondre à des grands enjeux de société et qui, du coup, m'ont fait un peu prendre conscience que finalement, c'était par l'action qu'on pourrait tester même notre vision et notre modèle de société pour qu'en plus, ensuite, ce modèle de société-là puisse se diffuser plus largement. Et donc, j'ai intégré l'UM Lyon et je me suis d'abord spécialisée en entrepreneuriat social. Mais finalement, j'ai préféré, plutôt que d'étudier l'entrepreneuriat, qui pour moi est quelque chose d'assez intuitif, d'étudier la finance. Parce que c'était pour moi ce qu'on pouvait apprendre de plus technique dans une école de commerce. Sinon, ça restait assez... tous les élèves le savent, hein, c'est quand même l'enseignement, il est très cher, il n'est pas de haute qualité. Apprendre le marketing ou le management ou le comportementalisme entreprise... je trouvais ça un petit peu ras des pâquerettes. Et pour moi, le système financier, c'était le truc le plus technique que je pourrais apprendre en école de commerce. Et surtout, c'était depuis mes études même d'économie que j'avais bien pris conscience du fait que c'était la colonne vertébrale du système et qu'il fallait essayer de comprendre ces mécanismes pour changer le monde, quoi.
Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Déjà, je me demande, tu vois, en t'écoutant, tu partais vraiment en effet avec... un bagage en moins par rapport à toutes ces personnes qui connaissent le système, qui sont préparées, qui ont été au courant de comment ça se passe. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aimerais voir proposer pour que justement il y ait peut-être moins ces inégalités déjà, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'égalité des chances, mais en fait les faits sont toujours là, c'est-à-dire que tu arrives quand même à 18 ans, tout le monde n'a pas la même connaissance des écoles qui existent, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités et tout le monde n'a pas forcément le même champ des possibles. Comment est-ce que tu te dis qu'on pourrait le changer?
C'est très simple. Déjà, il faut commencer à en parler à l'école, au lycée. Ouais. Jamais personne n'était venu, alors que j'étais dans un grand lycée, quoi. Hélène Boucher, dans le 20e arrondissement, qui faisait partie des lycées de l'Est parisien les plus renommés, etc., et puis les plus sélectifs. Personne n'est venu nous raconter ce que c'était une grande école, comment on pouvait postuler, quelles étaient les différentes classes préparatoires qui existaient, qui pouvait y accéder, quelles matières on allait enseigner, pour quel métier, etc. Enfin, voilà, et ça déjà, c'est assez fou parce qu'on part du principe que on devrait le savoir, ou je sais pas, que ça fait partie du bagage. Mais je sais pas qui nous enseigne ça, en fait, à part nos parents, du coup.
Ouais, du coup, l'inégalité perdure, quoi, si c'est uniquement le foyer. Mais j'ai l'impression que, fut un temps, il y avait plus des conseillers d'orientation qu'on allait voir individuellement. Enfin, j'ai pas connu ça de moi non plus, hein, mais je sais pas pourquoi ça s'est perdu. Et j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, c'est tellement la loterie aussi en fonction du conseiller d'orientation sur lequel tu tombes. Moi, je sais que j'ai des amis... qui n'était pas forcément, qui n'avait pas des excellentes notes en cours, et à qui on a dit, ça sert à rien de faire des études, ou alors n'essayez pas de viser une grande école. Donc en fait, c'est ça aussi qui est terrible avec l'école de manière générale, c'est que sachant qu'on sait très bien que tout le monde ne sera pas 100% bienveillant, supportif, ouvert d'esprit, en fait, c'est presque à nous d'aller compenser ce manque de possibilités, de ce champ des possibles, mais en écoutant des podcasts, déjà, c'est pas
ouais,
mal. Mais ouais, c'est, je trouve que ça reste quand même une inégalité criante que généralement, en fait, on compense, au contraire, après les études. Tu vois, généralement, c'est beaucoup de gens, pendant leurs études ou après leurs études, qui se rendent compte qu'en fait, ils peuvent tout à fait faire un autre chemin et qu'au final, c'est juste un bagage. Mais c'est vrai qu'on sacralise tellement les études quand on est ado ou quand on est jeune adulte, qu'on se rend pas compte qu'au final, oui, c'est très important et ça te donne, ça permet de structurer ta pensée, potentiellement de te créer un réseau, etc. Mais qu'au final, c'est quand même par l'action et par le fait de se bouger que le plus de choses se passent, quoi.
Oui, pour moi, ça te donne une identité sociale. C'est-à-dire que je pense que grâce à ça, j'ai pu avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès si j'avais pas eu le CVEM Lyon, machin. Mais c'est tout. Et même s'il y a des gens qui nous écoutent... Qui se sont fait orienter. Moi, personnellement, je me suis fait orienter. Hein. Il y avait des conseils d'orientation. Mais ils me disaient que j'allais peut-être même pas réussir à la fac. Voilà. Ils m'avaient donné un avis défavorable sur les grandes écoles, avis défavorable sur des magistères. Ils m'avaient mis, je ne sais pas si vous en sortirez à la fac, ils m'avaient conseillé des IUT, BTS. C'est pas que ce soit des formations mauvaises ou quoi, mais c'est juste qu'en tout cas, c'était.
C'est parce qu'ils te parlaient, toi.
C'est parce qu'ils me parlaient. Moi, j'étais vraiment dans le domaine de la pensée. J'avais du mal avec ce qui était trop concret. Et c'est juste par le niveau que j'ai eu en terminale, parce que je préférais faire des concerts au Gibus que d'aller écouter un prof de physique-chimie où ça me désintéressait totalement. Et finalement, derrière, j'ai fait des études de philo, j'ai eu mention bien à la licence, etc. Et jamais j'aurais pensé faire ça. À l'époque, c'était pour mes profs impossible que je réussisse là-dedans.
Quand est-ce que tu cales cette licence de philo, du coup, dans ton parcours?
Ouais, c'est un peu absurde.
J'essaie de suivre.
Ouais. Alors, on va essayer de retracer avec les grandes dates clés. je rentre dans cette école de commerce. Je fais plein de choses. Je décide d'entreprendre. J'avais commencé une prépa Sciences Po pour intégrer un master après l'école en finance. Et donc, c'était ou l'entrepreneuriat ou le master de Sciences Po. Et j'ai décidé d'aller dans l'entrepreneuriat parce que
j'avais
besoin d'agir. Donc, je commence à développer ma boîte. Et la philo, c'est arrivé au bout de 2-3 ans de boîte où je commence en fait à porter la parole de mon écosystème. Je ne sais pas comment c'est arrivé progressivement. Hein. Vraiment avec mon entreprise... Elle incarne beaucoup de choses, mon entreprise. Elle porte plein de messages. Je pense que moi, j'ai toujours aimé m'exprimer publiquement. Donc, les médias ont tout de suite trouvé mon profil assez sympa. Ils m'ont fait parler. Et au fur et à mesure, des mouvements plus larges que ma boîte ont voulu que je porte la parole pour eux, dans des conférences, dans les médias. Et j'ai ressenti un petit complexe, un syndrome de l'imposteur sur ma capacité à porter une vision au-delà de mon entreprise. Et c'était important pour moi de revenir à une forme de réflexion. Et c'est vrai que la philosophie, c'était le lieu le plus simple. Je lisais beaucoup de philo, mais je ne l'avais pas fait d'un point de vue académique. C'était pour moi un moyen de structurer ma pensée, me poser les bonnes questions et être sûre que ce que je portais était juste, était vrai, me rapprocher au plus de la vérité, c'est ça le but de la philosophie. Et donc j'ai fait ça en cours du soir. Voilà.
D'accord.
À côté de ma boîte, 20h-22h, à l'Institut catholique.
D'accord, ok. Donc tu peux t'inscrire à l'Institut catholique pour prendre des cours du soir de philo.
C'est génial.
Okay. Est-ce que tu aurais un livre à recommander peut-être aux personnes qui ont un peu peur de la philo parce que on s'imagine beaucoup de choses. Toi, un livre qui t'a parlé et que t'aimerais bien recommander?
Alors, c'est compliqué parce que j'aime pas trop, moi, les personnes qui vulgarisent la philosophie. Je trouve pas ça très intéressant. C'est pas du tout par mépris, pas du tout. C'est juste que ça se rapproche très... En fait, je le faisais, moi, avant, je lisais... c'est des bons philosophes, mais qui écrivent maintenant des livres de vulgarisation, mais les Frédéric Lenoir, tout ces... je les ai lus avant, effectivement, moi, d'intégrer... Et en fait, ça m'a, à la limite, fait mécomprendre certains auteurs. Quand j'ai intégré, du coup, mes études de philo, je me suis dit, j'avais pas vraiment compris ce qu'il avait dit... Parce qu'en fait, on vulgarisait un concept qui est juste une méthodologie de pensée, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas donné la réponse à la perfection ni à la liberté. Il a questionné de sa manière ces questions de la perfection et de la liberté. Et donc, du coup, je, si les gens s'intéressent à la philo, je vous pousse davantage à écouter des conférences de philosophes, notamment sur le site de la BNF. Il y en a, mais une tonne, quoi, 200, 300 philosophes qui viennent pendant de 20 à 1 heure, 20 minutes à 1 heure, poser la question de leur concept, et c'est des mini-cours. Et je trouve que c'est ça qui éduque plus le cerveau. Ce qui m'intéresse, moi, dans la philosophie, c'est pas la réponse, c'est cultiver l'esprit critique. Voilà.
Totalement. Ouais, je te rejoins totalement. Bah, j'irai voir ça. Donc, pour revenir à l'ITA, du coup, tu montes l'ITA. Alors, je crois qu'au début, c'était 1001 Impact.
Ouais, ouais.
Donc, dis-nous, tu fais quoi là, dès que tu sors de cours, dès que tu as ton diplôme, tu te mets à bosser dessus ou c'était déjà un projet de fin d'études?
Alors, donc je suis en Master 1, je suis en Chine, j'étudie l'innovation et j'accompagne une entreprise sociale là-bas. Et avec mon associé actuel, en fait, on avait monté déjà une ONG quand on avait 18 ans au Togo. On construisait des écoles. Et cette ONG, ensuite, je l'ai intégrée à l'EM Lyon, ce qui fait que ça a été un projet qui a, entre Centrale et l'EM Lyon, qui s'est développé et qui se développe encore, donc qui permet de, voilà, de créer des écoles et développer un système éducatif, ramener les professeurs des villes dans les villages. Donc au Togo, à Panimé, à côté de Panimé, un village qui s'appelle Padapé. Donc on a monté cette ONG avec Julien, et ensuite on parlait beaucoup ensemble pendant nos différentes écoles, on était en prépa ensemble, hein, et pendant nos cursus, on réfléchissait à quel type d'entreprise on aurait envie de monter, quoi. C'était un peu, on se faisait un déjeuner une fois toutes les 2-3 semaines et on réfléchissait autour de ça. Lui, il était à la Caisse des Dépôts, moi à l'époque j'étais dans une banque sur l'analyse des transactions de la banque dans les secteurs controversés, donc l'armement, le nucléaire, l'huile de palme, le charbon, la pâte à papier. Et mon service dans la banque essayait de désinvestir de ces secteurs-là, en tout cas d'améliorer la pratique que la banque avait. Ça résonne beaucoup parce qu'en ce moment, on parle beaucoup maintenant des financements des banques dans l'expansion des énergies fossiles. Mais à l'époque, c'était vraiment le travail que je faisais il y a 12 ans dans cette structure-là. Mais pour moi, le système de la banque, sa hiérarchie, était, enfin voilà, impossible. Enfin, je m'y voyais pas du tout. Du coup, avec mon associé qui était à la Caisse des Dépôts, on essayait de se challenger. Donc moi, je pars en Chine, lui il part en Inde, et on continue à se faire des zooms sur les boîtes qu'on peut créer. On voit qu'il y a un concours d'entrepreneuriat. Je sais plus. À l'époque, c'était Marc Simoncini.
Ouais.
Ils avaient créé un concours d'entrepreneuriat, Xavier Niel, etc. Mais ils donnaient 100 000 euros pour monter ta boîte. Et on a vu ça avec mon associé et on s'est dit, et on avait parlé de plein de concepts, et on s'est dit, parce que du coup, ce concept-là, en l'occurrence, qui était l'idée d'avoir du financement en ligne, moi, j'avais déjà travaillé dans une structure en Inde un peu équivalente, qui s'appelait RankD, qui était une plateforme de microfinance pour permettre, en fait, aux Indiens résidents, non-résidents, souvent des castes les plus privilégiées d'Inde, de pouvoir financer des projets d'entrepreneuriat sous le modèle du microcrédit, de femmes dans les régions rurales. Et c'est une plateforme qui faisait le lien entre ces personnes et les femmes dans les villages. Et moi, j'accompagnais la création de ces projets et la mise en place de certaines opérations sur cette plateforme-là en Inde, avant qu'on ait cette idée d'entreprendre. Donc, on avait pensé à développer un système un peu équivalent, mais pour développer l'entrepreneuriat social en France, qui peinait à trouver des financements parmi d'autres projets. Et on se dit, allez, on tente celui-là. Et du coup, on a travaillé en Zoom, nuit et jour, à construire un pitch, quoi, un dossier, pour pouvoir postuler à ce concours selon ce modèle-là, d'une plateforme qui permettrait de financer l'entrepreneuriat social, mais avec ce prisme, qui n'est pas le prisme de l'entreprise actuellement, de la diaspora. Donc avec, effectivement, des personnes du Maghreb, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, qui investiraient, qui financeraient ces projets d'entrepreneuriat social dans les pays duquel ils viennent, pour faire en sorte que l'aide au développement puisse être plus dirigée vers le développement d'entreprises sociales et lutter contre une forme de néocolonialisme économique qui fait que toute l'aide au développement aujourd'hui, je grossis le trait, hein, mais une grosse partie de l'aide au développement va plutôt dans des entreprises européennes, asiatiques, etc., dans les régions en Afrique, en Amérique du Sud, plutôt que dans des entreprises portées par des entrepreneurs locaux.
Ouais. Voilà.
Donc c'est pour lutter un peu contre ça qu'on a voulu développer cette plateforme. Sauf que c'était... Alors voilà, donc quand on est entrepreneur, on réalise le plus gros obstacle au développement de l'entrepreneuriat, qui est le réglementaire. C'était réglementairement trop compliqué. Mais de toute façon, c'était, je pense, trop compliqué in fine.
Est-ce que du coup, vous vous en êtes rendu compte avant le concours ou après?
Non, après.
Donc, vous avez participé au concours ?
On fait le concours, on le perd.
Ok.
L'entrepreneur social, ça passionnait pas les entrepreneurs de la tech.
J'imagine.
À l'époque, c'était pas trend comme maintenant.
Ouais, ouais. C'était des précurseurs,
voilà,
que veux-tu.
C'était il y a 10 ans, du coup. C'était en 2013.
Ouais.
Voilà.
Donc, et c'est là où vous vous dites, bon, dans tous les cas, faut qu'on itère parce que trop de réglementation, quoi.
Voilà, faut qu'on itère. On rentre en France. Moi, il me reste un an de Master 2 à faire à l'EM. J'en peux plus, j'ai plus rien à apprendre. Je vais voir le dean de l'EM, je lui dis j'ai envie de monter ma boîte, est-ce que c'est possible ? Il me dit oui. J'intègre l'incubateur de l'EM Lyon. Et plutôt que de faire du coup une année de Master 2, je monte ma boîte en fait.
Ah, c'est génial voilà. Qu'ils te permettent
ça. C'est génial, ouais, franchement.
Parce que moi,
pour
je
ça...
peux dire, ils m'ont pas. Ils m'ont...
Ah ouais.
Non, moi, je prends une année de 6 jours pour le faire.
Oui, voilà, parce que c'est super académique et c'est assez.
Je sais pas pourquoi, parce que dans l'absolu, je pense que c'est juste, je ne sais pas, moins la culture entrepreneuriale que les écoles de commerce, tu vois.
Bah, c'est moins valorisé.
Ouais, bah alors pourtant, ils sont très contents après coup, hein.
Ouais,
mais tu vois.
Mais
oui, je pense qu'ils gagneraient à offrir cette possibilité-là. Parce que voilà, en plus, c'est pas non plus en première année, quoi. C'est en dernière année, quitte à ce que t'aies quelques cours à côté, mais j'ai même pas eu le droit à un aménagement de scolarité, tu vois. Donc,
ouais, c'est fou.
C'est dommage. Donc, ouais, toi, t'es vraiment dédié à monter ce que devient l'ITA,
ouais.
Du coup.
Ouais, pour le coup, c'est vraiment le truc, c'est le slogan aussi, je pense, de l'AMIAN. Peut-être qu'à HEC ou SCP, ils permettent pas ça, mais l'AMIAN, c'est l'école des entrepreneurs, donc ils sont super contents quand quelqu'un veut entreprendre. Mmh. Donc, ils me permettent de faire ça, et pendant un an, bah, ils me mettent à disposition leur incubateur, leur réseau. Pour que je parle à des gens et que je vois si ce projet il peut mûrir et il peut aller au-delà que juste un projet d'étudiant. Et c'est là que je réalise, notamment en parlant avec pas mal d'investisseurs, de juristes, etc., que la dimension internationale, elle serait pas possible pour monter un truc alternatif au secteur financier. C'est aussi beaucoup lié à la crise financière. Depuis la crise financière de 2008 et même globalement depuis un moment, la réglementation financière, elle s'est extrêmement durcie. Et c'est un milieu qui est très regardé. Et on peut faire très peu d'innovation.
Ouais.
Donc, c'est essentiellement pour ça. Surtout le fait, en fait, de donner accès à de l'investissement à des particuliers, c'était même pas présent dans la réglementation à l'époque, quand j'ai commencé à monter le truc. Et en fait, les particuliers sont perçus comme par les régulateurs financiers comme des gens non professionnels, pas capables de choisir pour eux leurs propres investissements. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le système financier... dysfonctionne pour moi.
Parce qu'il est très inégalitaire.
Il est très inégalitaire, voilà. Et il y a des gens qui sont considérés comme professionnels parce qu'ils ont un niveau de patrimoine élevé, parce qu'ils ont des compétences en finance traditionnelle, mais un particulier lambda, peu de patrimoine, va pas avoir accès aux mêmes services. Mmh. Et nous, on voulait permettre justement aux particuliers d'être plus alignés avec leurs valeurs. Et c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme qui s'appelait effectivement Mille Impact à l'époque. Et au bout de 6 mois d'incubation de l'EM, on décide avec mon associé, lui, il quitte son job auprès de Martin Hirsch à l'OCDE. Et on monte ensemble, du coup, la boîte
okay.
Définitive.
Alors, beaucoup de questions. Déjà, pourquoi vous changez de nom ? Pourquoi vous appelez ça l'ITA ?
Alors, donc, on n'était pas très sensibles. On n'était pas des entrepreneurs de la tech. on n'était pas très sensibles, en fait, au naming. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on a choisi ce nom. On a fait un brainstorming avec nos potes. On avait 22 ans et c'est un nom, c'était 1001PACT, donc c'était pas du tout digital native, c'est-à-dire que quand tu dis le nom, personne n'est capable de le réécrire convenablement, donc ça marchait pas trop en termes de marketing. Et surtout, on a très rapidement développé au niveau européen, et c'est un nom qui est purement français, qui faisait le lien entre impact avec le 1 et one pact, ça veut pas dire impact. Donc, donc on a voulu avoir un nom qui était beaucoup plus universel. Et un nom aussi assez féminin pour un secteur financier assez viriliste. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'ITA. À l'époque, okay. Qui voulait dire autre chose que... Maintenant, c'est juste une marque.
Ça voulait dire quoi ? C'est un acronyme ?
Avant, c'était un acronyme. Live Impact Trust Act. À un moment, ça a été Live Impact Through Alternatives. Enfin, bon.
Ok. Donc ouais, non, mais intéressant.
Maintenant, c'est l'ITA,
quoi. Tu peux le brander, quoi.
Voilà.
Et donc, tu peux nous expliquer ce que c'est l'ITA ? C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'en ont parlé. La semaine dernière, je déjeunais avec la fondatrice de Loom, Julia Faure, qui a levé sur l'ITA. Enfin, je la cite, mais en fait, il y en a eu beaucoup.
Ouais.
Est-ce que, pour les personnes qui connaissent pas encore ce que c'est, tu peux nous en parler ?
Ouais. Alors, l'ITA, c'est vraiment une alternative à tous les problèmes du secteur financier traditionnel. C'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé. Le premier problème, c'est l'opacité. Donc, ça veut dire qu'on a un produit d'épargne, on ne sait pas ce que ça finance. Donc, la volonté de l'ITA, c'est déjà de mettre en place une plateforme dans laquelle on peut choisir les entreprises dans lesquelles on investit. Le deuxième problème du secteur financier, c'est qu'il n'est pas adapté à une économie écologique et sociale. par ses recherches en matière de retour sur investissement, de manière d'investir. Il n'est pas adapté à l'émergence de cette économie-là. Donc, ce n'est pas que des entreprises en direct, c'est aussi des entreprises qui participent à résoudre des grands problèmes de société. Donc, on peut avoir voilà, une entreprise qui produit différemment, comme Loom, et qui d'ailleurs sensibilise les gens à un concept de décroissance à travers la consommation de vêtements. On peut avoir une boîte qui va faire du relocaliser la filière du lin, comme Balcorex. On peut avoir une boîte qui développe des énergies renouvelables. On peut avoir une boîte qui développe des logements sociaux. On va financer les foncières du groupe Emmaüs, par exemple. Ou Chenlay, qui propose aussi des logements écologiques et sociaux. On peut avoir des boîtes qui développent de l'agroécologie. Donc voilà, c'est tous les systèmes alternatifs à l'économie traditionnelle qui sont alignés avec les accords de Paris, qui luttent contre les discriminations et qui transforment l'économie, répondent à des enjeux de justice sociale et de justice écologique. Cette économie-là, elle existe. Et c'est ce qu'on veut montrer avec l'ITA en permettant aux gens d'y investir. Parce que finalement, sans investissement, pas d'économie durable, hein, c'est tout aussi simple que ça. Et l'ITA permet de créer ce lien entre les individus et puis ces entreprises. Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions à peu près d'investissements qui ont été faits dans ces entreprises-là. On va lancer des fonds d'investissement aussi pour accompagner les particuliers. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant avec l'ITA, c'est que ça adresse aussi le dernier problème de la finance, qui est la question de l'éducation financière des individus. Aujourd'hui, le secteur financier, par son opacité, par le manque d'éducation aussi des gens à l'économie et à la finance dès le plus jeune âge, hein, c'est comme les grandes écoles, hein. Connaître l'économie, connaître la finance, c'est pas pour tout le monde, c'est pas transmis à tout le monde. Et ben, l'ITA permet en fait, en permettant aux particuliers d'investir dans ces entreprises, d'éduquer et de démocratiser la manière dont l'économie doit fonctionner. Et on a beaucoup de gens qui nous ont dit, et on a même fait des études, des mesures d'impact, après un investissement sur l'ITA, déjà ils ont investi de manière responsable sur l'ensemble de leur patrimoine, ils ont même consommé de manière plus responsable parce qu'ils ont vu que ces alternatives existaient, et puis ils ont même changé leur vote, parce que politiquement, ils ne pensaient pas possible le fait d'avoir une économie vraiment durable. Ils ont vu que c'était possible avec l'État, donc ils vont aller vers des programmes économiques beaucoup plus progressistes. Et voilà, c'est à ça que sert l'État, au-delà même de son activité propre de financement de projets alternatifs comme celui du
Lyon. Ouais, hyper intéressant. Donc en gros, moi, si j'ai bien compris, c'est une marque, une entreprise va venir sur la plateforme de l'État, va demander un financement, et plutôt que d'aller voir des VC traditionnels, ils vont lever auprès du grand public, auprès des particuliers. Et en fait, bah, vous qui nous écoutez, vous pouvez dire, mais en fait, moi, je crois beaucoup en ce projet, je vais mettre tant. Je crois que c'est à partir de 100 euros.
À partir de 100 euros.
Ouais, jusqu'à, il n'y a pas de montant maximum. Vous pouvez mettre autant que vous le souhaitez.
C'est ça.
Et ensuite, ça se passe comment? Parce que c'est ça la grande question. Parce que dans le secteur de l'investissement traditionnel, on va lever auprès d'un fonds qu'on va avoir tous les mois, à qui on va avoir des échanges, à qui on va potentiellement verser des dividendes, ou en tout cas, voilà, rachat de parts. Comment vous avez fait pour dépasser cette complexité si on a 500 actionnaires, du coup ça devient des actionnaires?
Bah, ça a été ça effectivement le travail, ça a été de développer un outil technologique qui permettrait aux gens d'investir en ligne, ce qui n'était pas possible avant, et de suivre leurs investissements et d'organiser du coup ce collectif. En fait, les actionnaires sont regroupés dans une structure. Ils peuvent voter aux assemblées générales, etc. Mais l'entrepreneur ne va pas gérer 500 personnes en frontal. Il va gérer une personne qui va représenter une collectivité.
D'accord.
C'est un modèle même coopératif, entre guillemets, de gestion de l'actionnariat. Et puis, il n'y a pas que de l'actionnariat, il y a aussi de l'obligation. Ça veut dire qu'on prête de l'argent à une entreprise. Et là, c'est un peu moins compliqué, du coup, à gérer pour une entreprise derrière. Voilà, en fait, c'est vraiment la plateforme qui l'outil technologique qui va permettre de faciliter. Et franchement, beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit, c'est plus simple de gérer mes 500 actionnaires avec l'État que de gérer 5 business angels ou 2 fonds d'investissement qui se pensent être les manias de mon industrie alors qu'ils n'ont jamais entrepris et qui ne vont pas nécessairement m'aider suffisamment ou me demander énormément de reporting à des moments où ce n'est pas le plus important que je sois dédié à mes investisseurs, mais plus que je sois dédié à mon entreprise. Donc voilà, ce travail aussi que l'ITA fait d'accompagnement des entreprises, il est aussi hyper important et cette culture entrepreneuriale forte qu'on a. Parce que le milieu du VC, le milieu de l'investissement aujourd'hui, il est même dans l'impact, donc ça veut dire dans les fonds d'impact. Si vous avez envie de vous intéresser à un fonds, savoir s'il est réellement impact, le plus simple, c'est de regarder d'où viennent les gérants de ce fonds-là. Et dans la moitié des cas, les gérants de ces fonds viennent de grosses entreprises ou de fonds extrêmement traditionnels. Donc ils vont aller dans le secteur de l'impact parce qu'ils considèrent que c'est des secteurs progressistes, c'est l'avenir en fait de l'économie, mais ils vont y appliquer des manières de faire d'hier. Donc, par exemple, pressuriser les fondateurs sur des retours assez court terme, être dans des logiques purement d'exit. Ça veut dire de comment on va vendre au plus offrant, le plus vite l'entreprise, faire des choix stratégiques qui ne seront pas toujours liés à l'impact écologique ou social de l'entreprise, etc. Pousser l'entreprise à faire beaucoup de marketing. Et notamment, il y a une stat qui est un peu parlante. Aujourd'hui, sur les montants levés dans la tech française, plus de 60% sont dédiés aux GAFA. Ça veut dire qu'au final, 100 € qui investissent, 60 € vont aller sur de l'ads, sur des pubs en ligne, etc. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. On lève des fonds pour financer de l'activité économique et pas que du marketing. Et donc, voilà, ça, c'est des pratiques typiquement de venture capitaliste assez traditionnelles où nous, on essaye de lutter contre ça et que les fonds puissent aller au développement de l'utilité sociale de la boîte.
Et quand tu dis que vous allez créer un fonds d'investissement, t'as dit pour les particuliers. Est-ce que tu voulais dire pour les entrepreneurs ou c'était pour aider les particuliers à financer des projets ?
Alors en fait, on a beaucoup d'institutionnels, d'autorités européennes, de banques publiques, etc. qui veulent investir avec les particuliers sur la plateforme. Et jusqu'à maintenant, on ne leur permettait pas de le faire. Et là, on va créer un fonds d'investissement pour que justement, les particuliers, quand ils mettent 1 €, le fonds puisse abonder d'un euro supplémentaire.
D'accord.
Ça va être un fonds très thématisé autour de la sobriété et la justice sociale pour accompagner des vraies entreprises qui proposent une alternative de sobriété mais en répondant à des enjeux de justice sociale. Dans les prochains mois, j'espère un fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros.
D'accord. Donc, si demain, il y a une boîte qui propose, par exemple, le microcrédit que vous vouliez appliquer, même si on l'a compris, la réglementation est quand même compliquée, et qu'elle souhaite lever sur l'ITA, elle bénéficierait de voir le montant qu'elle lève doublé par le soutien d'institutions.
Exactement. D'accord, ça, c'est un projet qu'on a en ce moment.
Ok, trop intéressant. Trop intéressant, et comme ça ne suffisait pas, tu as aussi du coup créé Rift en 2020, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Qui, je pense, vous avez dû repasser sur Instagram, si vous me suivez, vous avez dû le voir parce que je l'avais relayé notamment quand Camille en avait parlé pour voir qui finançait ICOP, qui est donc le projet climaticide de Total. Je te laisse présenter Rift et pourquoi vous avez voulu le créer et sous cette forme-là.
Donc ça suffisait pas, comme tu dis. L'ITA, ça permettait de répondre à un problème de la finance, mais ça pourrait changer quoi ? Aller au max 5% de la manière dont l'épargne est investie aujourd'hui, parce que c'est risqué. Et en fait, l'essentiel de l'épargne, c'est des livrets, c'est de l'assurance vie. Et on voyait beaucoup de choses émerger, des assurances vie vertes, des comptes épargne verts. Et à chaque fois, on regardait, on analysait, on se disait, mais comment ils font réellement pour nous garantir que c'est vert ? Parce que nous, clairement, la donnée, on ne la trouve pas. Donc, on a vu la révolution Yuka et on s'est dit, c'est un bon levier de transformation systémique d'un secteur. Parce qu'au final, moi, ma passion, c'est de faire en sorte que l'économie et la finance ne soient plus extractivistes, qu'elles soient régénératrices. Et pour ça, et ça passe par la transformation de la manière dont on épargne nécessairement. Donc, on a, à la différence de Yuka, malheureusement, on n'avait pas accès à une base de données. Parce que UK, ils ont le code barre avec Open Food Fact. Donc, ils savent, ils récupèrent ces bases de données et ils disent aux gens, voilà, ce produit-là, il a tel point, il est vert, il est rouge, etc. en termes de santé, de nutrition. Choisissez plutôt ce produit-là, mais c'est sur la base d'une base de données existante. Nous, il n'y avait pas de base de données. Donc, on a dû constituer, en fait, pendant 3 ans, une base de données regroupant le lien entre tes livrets dans toutes tes banques, tes assurances-vie, tes comptes-titres, enfin, tous les produits d'épargne qui existent. Et réellement ce qui est financé. Alors, on a dû pour ça acheter beaucoup de données à des fournisseurs de données américains. Il faut savoir que c'est quand même les Américains qui détiennent la donnée sur l'épargne française, elle n'est pas publique.
Eux qui la détiennent ?
En fait, c'est parce que le système de la donnée, de la récupération de la donnée, c'est du privé. Mmh. Et beaucoup d'entreprises européennes et françaises n'ont pas trouvé de modèle économique et du coup ont dû vendre à des gros agrégateurs de données américains comme Morningstar, FactSet, etc., qui sont d'ailleurs le plus souvent eux-mêmes détenus par des gros gestionnaires d'actifs internationaux, ce qui pose énormément de problèmes sur la qualité de la donnée et la véracité de cette donnée et l'influence, et notamment parce que c'est ces acteurs-là aussi qui maintenant ne détiennent pas que la donnée sur les produits, mais aussi la donnée extra-financière, ça veut dire l'impact carbone, les risques environnementaux, sociaux, etc., de la donnée financière. Et donc, quand vous allez dans une banque ou qu'on vous propose un produit, on utilise des fournisseurs de données souvent qui qui sont influencés et biaisés par le fait que, bah, notamment BlackRock détient la plus grosse, BlackRock est le plus gros gestionnaire d'actifs européen international, c'est-à-dire celui qui gère le plus d'argent dans le monde, qui gère toute l'épargne américaine, l'épargne retraite, etc., qui gère aussi beaucoup d'épargne en France. Bah, lui-même, c'est lui qui fait les évaluations, indirectement à travers une filiale, bien évidemment. Mais donc, il y a quand même beaucoup de conflits d'intérêts. Ah ben voilà. Et donc, c'est un problème. Donc, on s'est dit, on va essayer de reconstituer cette donnée. Donc, on achète toutes les lignes. On essaie de découvrir dans tel produit, il y a tel fonds, il y a quoi comme entreprise financée. On va aussi chercher dans les rapports, parce qu'ils existent hein, souvent, mais ils ne sont pas disponibles. Il faut faire 4, 5, 3 000 pages pour pouvoir arriver finalement au rapport et pouvoir reconstituer la donnée.
C'est pas insupportable ?
C'est insupportable.
T'as fait ça pendant combien de temps ?
On a fait ça pendant 2 ans et demi.
Tous les jours, vous bouffiez de la data.
Voilà.
Ah putain, faut être motivé. Hein.
Ouais.
Merci.
Ouais, ouais, bah merci. De rien. Et maintenant, on fait un gros plaidoyer auprès de Bercy, justement. Ouais. Maintenant qu'on a reconstitué la donnée, mais qu'on n'a pas tout.
Ouais.
Il y a plein de produits sur lesquels on a juste écrit obligations et titres financiers et on n'arrive pas à savoir c'est quels secteurs qui sont financés ou dans certains cas, on n'a que le secteur, mais pas l'entreprise. Et puis dans certains cas, on a. Et c'est ce qui nous a permis de faire l'opération justement avec Total. Et c'est quelque chose qu'on reproduit même maintenant avec des boîtes dans le travail forcé, qui sont exposées au travail forcé. On peut permettre aux gens de réaliser s'ils sont exposés à ces entreprises qui ont des activités très controversées. Et essayer de voir finalement cette vision qu'on avait à l'origine que la finance a un pouvoir. Si on inverse le pouvoir, c'est-à-dire si on utilise l'épargnant comme un moyen de faire pression auprès des acteurs financiers pour que ces acteurs financiers fassent pression auprès des entreprises pour qu'elles changent, est-ce qu'au final, on ne touche pas quelque chose d'intéressant ? Et le fait que cette opération auprès des actionnaires de Total ait eu autant d'impact pour pousser Total à sortir des énergies fossiles et pas développer de nouveaux projets d'extraction, et bah, c'était pour nous, en tout cas, ça a répondu à une conviction que ça passera par cette pression financière. La transformation des grandes industries. Ça passera par le réglementaire. C'est pour ça que je fais beaucoup de lobbying avec le mouvement, parce que comme si ça ne suffisait pas, en plus, j'ai pris la tête d'un mouvement, un lobby d'intérêt général d'entrepreneurs de la transition. Ça passera par de la régulation, mais ça passera aussi par de la pression des actionnaires financiers. En fait, finalement, en n'étant pas nous-mêmes capitalistes néolibérales, on joue le jeu du libéralisme à fond. Si la promesse est que le marché est censé réguler, eh ben, on va jouer le jeu jusqu'au bout, mais dire qu'il y a une défaillance de marché. C'est pas normal qu'un épargnant il n'ait pas de pouvoir auprès de l'entreprise qu'il finance indirectement.
Et une asymétrie d'information quand même énorme. Parce que du coup, tu permets quand même à toutes les personnes qui ont leur argent qui dort à la banque de savoir en fait à quoi sert cet argent. Parce que non, il ne dort pas, il sert à financer des projets que peut-être vous ne soutenez pas. Et c'est sûr que pour moi, je le souhaite d'ailleurs, hein, que Rift et le mouvement que vous avez créé continue à grossir et aller encore plus loin. Tu vois, ça devrait être limite, je trouve, quand t'es sur ton application bancaire, t'es un petit déroulé de voilà actuellement votre argent, ce qu'il est en train de financer, ou alors qu'on te propose au début de chaque mois, est-ce que c'est OK pour vous, est-ce que vous n'êtes pas OK, oui, non. En vrai, c'est possible, tu vois. Et en fait, je pense que le drame de beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises, c'est d'avoir perdu l'innovation. C'est d'être tellement obnubilé par la croissance et par même au final parfois juste l'espèce de défense quoi, face à des concurrents, qu'ils ont perdu, qu'au lieu d'entendre les arguments qu'on leur oppose ou les solutions qu'on leur propose, ils sont campés dans leur position, ils ont peur, ils ne veulent pas essayer, alors que Instagram, je veux dire, aujourd'hui c'est quand même... Je pense que c'est une application qu'on est des millions, voire un milliard à travers le monde à avoir. Ils font de la B-testing tout le temps. Ils lancent des trucs, puis ils reviennent dessus. Et puis, pourquoi est-ce que les banques ne font pas ça dans le sens où ça ne servirait qu'à plus de transparence ? Mais c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, c'est qu'ils ne veulent peut-être pas que cette transparence soit effective.
Bah, ils sont assez conflictés, les banques. Hein. C'est-à-dire que d'un côté... Même si depuis la crise de 2008 et même avant, il y a ce qu'on appelle une muraille de Chine entre... Donc il y a une banque, vous connaissez les banques qui ont pignon sur rue, mais en fait ces banques-là, ils ont des filiales, une filiale qui prête, une filiale qui investit, une filiale qui conseille les particuliers sur des produits d'épargne, une filiale qui... Parce qu'il est censé y avoir une muraille de Chine entre tout ça. Sauf que, bah, en fait, malheureusement, il y a aussi quand même pas mal de conflits d'intérêts. Et puis, surtout... ce rôle un peu démocratique, c'est-à-dire l'actionnaire activiste, mais d'un point de vue positif, ça veut dire l'actionnaire qui pousse l'entreprise à aller vers plus de performance écologique et sociale et pas plus vers de rendement, ça va complètement en l'opposition avec tout ce qu'ils ont appris. C'est pas du tout... eux, le but d'une banque, c'est de gagner, faire gagner le plus d'argent possible à eux, d'abord, souvent, ou à leurs clients le plus riche, et puis ensuite à tous leurs clients, à tous leurs clients, et puis aux actionnaires. Et donc, eux, finalement, ça demande vraiment un changement de paradigme. Ça demande vraiment de transformer le modèle d'affaires de la banque, mais déjà, ça passe par une prise de conscience que le rôle de la banque de demain, ce sera un acteur de l'éthique, et de la régulation de l'éthique à travers l'investissement. Et ça, ils n'en sont pas du tout encore convaincus. Parce que pour eux, il y a la loi qui leur permet de faire certaines choses, qui restreint beaucoup de choses. Il y a la réglementation même communautaire au niveau européen qui les fait bouger. Il y a ce que veulent leurs clients. Et ensuite, il y a la maximisation du profit. Et voilà. Et ils font l'arbitrage entre tout ça. Est-ce qu'ils doivent être un régulateur de l'éthique ? Ça, c'est la vraie question qui se pose. Moi, je fais partie de beaucoup de comités éthiques de banques, justement, pour les pousser à changer. Et ils nous disent, bah, ça passera par la demande de nos clients. Donc, bah, très bien. Bah, nous, on
c'est à nous d'agir, quoi.
Que ça passe. Et tout ça, ça permet de rendre... C'est Judith Butler qui dit, la non-violence, c'est pas un état pacifique, mais c'est un état qui permet de rendre la rage articulable et efficace. Et ben moi, c'est vraiment mon mantra en fait au quotidien. C'est de rendre ma rage sur, sur la manière dont le système fonctionne, que je trouve, le système économique que je trouve déplorable, extractiviste, etc., par des principes et des procédés articulables et efficaces. Et ça, de rendre le pouvoir par la transparence, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très efficace sur le long terme.
Tu dis aussi qu'au final, aujourd'hui, l'économie est devenue beaucoup plus une idéologie qu'un outil. Comment, pourquoi on en est arrivé là ?
Bah, c'est vrai que ça faisait partie du travail que j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle Une économie à nous chez Actes Sud. C'est une commande, ils m'ont demandé pour l'élection présidentielle, pour que les gens puissent comprendre la question que tu poses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Et comment on fait maintenant, alors qu'on a l'impression que l'économie est un paquebot imbougeable, etc., comment on fait pour changer ce système ? Dites-nous, s'il vous plaît. Et du coup, j'ai fait ce travail hein, académique, concret, théorique, et puis politique aussi, d'analyse sur qu'est-ce qui s'était réellement passé. Donc l'économie à l'origine, donc, c'est quelque chose de noble, hein, c'est la gestion de la maison d'un point de vue étymologique, oikos nomos. Donc c'est censé être le principe par lequel on organise le foyer. Donc on organise la maison, et c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est comme ça que j'introduis mon livre d'ailleurs, que bah, en fait on gère, l'économie ne gère que la maison de quelques-uns, quoi. Et qu'on est tous un peu relégués sur le palier, et que l'économie n'est plus à notre service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ça a été une succession hein, de périodes économiques. Moi, j'ai souvent du mal à voir le capitalisme comme système économique comme un problème. Le capitalisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est ça hein, la question. Le capitalisme, aujourd'hui, pour moi, c'est l'accaparement, l'accumulation de capital et l'extraction des richesses, des ressources. Donc, si on le voit de ce point de vue-là, pas d'un point de vue étymologique ou juste du fait qu'il y a un capital avec des actionnaires. On peut le voir différemment, on peut le voir comme un outil, le capitalisme, on peut le voir comme une idéologie. Aujourd'hui, je pense que le capitalisme comme idéologie est à abattre, c'est-à-dire que le système de l'accumulation du capital par certains fait qu'on arrive à un niveau dans lequel, en fait, certaines personnes ont tellement accaparé les richesses que ça rend aujourd'hui impossible le fait de reconstruire cette économie parce qu'elle est à la décision de quelques-uns. Et c'est finalement ça qui s'est passé. On a eu la période donc, où il y a eu la guerre, l'économie de guerre. Je pense qu'on ne peut pas l'analyser parce que c'est une économie de guerre. On ne peut pas l'analyser comme un système qui fonctionne. Ensuite, il y a eu la période des 30 glorieuses. Je parle du XXe siècle parce que c'est ce qui parlera le plus.
On va pas... Et puis c'est là où, au final, on est vraiment entré dans le capitalisme.
Exactement.
C'est le 20e siècle.
Absolument. Donc la période des 30 glorieuses, c'était de se dire génial, la croissance. Effectivement, à l'époque, génial. C'est-à-dire que la croissance permet d'avoir des ressources pour le système politique, pour les individus, ce qui a fait qu'on a pu développer un système de santé, qui fait que aujourd'hui, grâce effectivement à l'époque, hein, au PIB, d'ailleurs Simon Knutzel, j'ai du mal à prononcer son nom, qui est l'inventeur du PIB à l'époque de Bretton Woods, donc en 1944, après la guerre, l'a dit depuis le début. Le PIB, c'est quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui d'analyser la performance d'un système économique. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre l'intérêt général ni le bien-être d'une société. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on considère encore que c'est quelque chose qui garantit le bien-être de la société. Donc à l'époque, il y a la période des Trente Glorieuses, donc il y a une croissance économique qui permet d'améliorer notre système de santé, qui permet à des gens de consommer des trucs, et notamment aux femmes, hein, de consommer des machines à laver pour ne plus être à la maison.
Non, et puis surtout parce qu'elles ont accès à leur propre compte bancaire en 1965, alors qu'avant, elles ne pouvaient rien acheter.
Absolument. Donc en fait, c'est ça d'ailleurs, hein, ça c'est un gros sujet, c'est qu'on voit aussi souvent le développement et l'avènement du capitalisme comme un outil de libération. Un outil libérateur pour les femmes, pour les personnes, etc. Parce que ça permet à tout le monde de consommer peu cher, de travailler, etc. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pendant les Trente Glorieuses, pendant 30 ans. Et à la fin, il y a les chocs pétroliers. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que ces ressources pétrolières, qui sont le système sanguin, qui est le sang du système, le sang du corps, le pétrole, aujourd'hui, pour notre économie, c'est le sang d'un corps humain. C'est-à-dire que notre économie ne fonctionne que grâce aux énergies fossiles, en grande partie. Voilà. Donc, elle est complètement transfusée. Donc,
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en subit aussi les conséquences avec les crises de l'énergie, du coup, l'inflation. Enfin, je pense qu'il a fallu presque attendre ça pour que les gens se rendent compte de la dépendance qu'on a par rapport au pétrole.
Et ce qui est fou, c'est qu'on s'en rend compte maintenant, alors que déjà, à la fin des années 80,
il y a eu beaucoup de chocs pétroliers, quoi.
C'était le moment où, plutôt que de passer à la phase qui est malheureuse et qui fait que c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation, qui est la phase de la financiarisation, on n'a pas voulu développer une économie qui était plus autonome face au pétrole. On s'est dit non, on veut garder cette croissance, s'il vous plaît. Si on perd cette croissance, on va perdre toutes les libertés qu'on a eues avec. Donc, c'est à ce moment-là, cette période économique, dans les années 90, que se développe la financiarisation, c'est-à-dire le développement du système financier qui continue à injecter des ressources financières dans l'économie malgré que l'économie ne fonctionne plus et n'apporte plus le développement humain qu'elle devrait apporter, le développement de l'emploi, etc. Et je pourrais rentrer dans la technicité, mais ce serait trop technique. Et je pense que si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre ou plein de vidéos, Datagueule et tout, qui explique ce système de la financiarisation très bien. Mais en tout cas, voilà, ce qui fait qu'ensuite, ça a donné lieu à des crises. Parce qu'en fait, le système financier qu'on a développé, c'est un système qui fonctionne par lui-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système financier, ça pèse 4 fois l'économie, le PIB mondial. Donc en fait, c'est un système qui fonctionne en vase clos, complètement. Et ce qui fait que ça fait naître des crises. Voilà, la crise de 2008. Mais il y en a beaucoup d'autres. La crise de l'épargne. On a connu une crise financière aussi cette année. Hein. Le CAC 40 s'est jamais porté aussi mal, etc. Et tout ça, ça fait qu'on est obligé maintenant, un peu dans l'urgence malheureusement, mais en tout cas pas dans l'urgence dans laquelle on sera dans 5 ans, donc c'est peut-être important de se poser la question maintenant, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est au croisement entre, d'un côté, par question de stabilité économique, on ne peut plus dépendre du pétrole. En même temps, le pétrole, on se rend bien compte que c'est l'énergie qui fera qu'on sera sur un scénario 5 degrés. Il faut rappeler qu'on est à 5 degrés de l'ère glaciaire aujourd'hui quand même. Donc il faut maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Pour ça, il faut arrêter d'extraire les énergies fossiles. Donc il faut en plus, pour les raisons climatiques, que notre économie ne dépende plus du pétrole. En plus, il y a les problèmes géopolitiques qu'on avait déjà analysés à l'époque des chocs pétroliers. C'est déjà aussi des problèmes géopolitiques. Notre dépendance à des dictatures par le fait que notre énergie ne fonctionne, notre économie ne fonctionne que avec le développement des énergies fossiles ou même d'énergies qui dépendent d'autres pays. Parce que ça n'empêche qu'on parle souvent du nucléaire comme étant la panacée. Moi, je rappelle juste, pour avoir bossé sur les cas nucléaires, que l'uranium, il vient pas du sol français, il vient du Nigeria, etc. Il faut aller l'extraire, avec tous les problèmes de cancer non déclarés, des gens qui ont extrait l'uranium dans ces régions-là, avec les problèmes politiques qui vont avec, etc. Donc, il faut rappeler que dans tous les cas, on pourra trouver de l'énergie qui est plus propre. On en a une, le nucléaire, effectivement, il est moins carboné. Mais ça n'empêche que la question fondamentale auquel doit répondre notre économie aujourd'hui, c'est comment je m'oriente déjà plus vers effectivement cette croissance qui invisibilise beaucoup de problèmes. Parce que même ceux qui vous disent que la croissance, qui te disent, qui disent que la croissance économique, elle est liée à la croissance de l'emploi, à la croissance du bien-être, aujourd'hui, tous les résultats montrent que c'est faux. Aujourd'hui, plus la croissance augmente, plus le niveau de pauvreté augmente. C'est un lien maintenant qu'on peut faire.
Et par contre, par rapport à l'emploi, je suis assez d'accord, non ? plus la, enfin plus il y a de croissance, plus du coup il y a moins il y a de chômage.
Eh ben non.
D'accord.
Eh ben non. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'analyse plus pour plusieurs raisons. De une, parce que aujourd'hui plus il y a de croissance, plus l'emploi se précarise. C'est-à-dire le système aujourd'hui croissantiste ne permet pas une croissance durable,
la qualité
pérenne,
de l'emploi,
de qualité. Et permet, en fait, la croissance qui est liée à l'injection de capitaux par le système financier, notamment très court terme, fait que les entreprises, ça les pousse davantage à déréguler au maximum. L'État, ça le pousse à déréguler, plutôt qu'à à réguler et accompagner l'emploi. Et ça précarise beaucoup l'emploi. Et donc, la question, c'est de se dire comment aujourd'hui on arrive à avoir un référentiel qui est un référentiel concret. Ça veut dire l'amélioration. Si le but de l'économie, parce que c'est ce qu'ils disent, en fait, finalement, même les économistes libéraux, ils nous disent aussi que l'économie, le but, c'est le bien-être, l'emploi, la santé. Eh bien, très bien. Eh bien, prenons ça comme boussole. Donc, prenons nos décisions économiques basées sur le fait que ces décisions économiques vont avoir un impact positif sur la santé, sur le bien-être et sur l'emploi. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qu'on essaye de défendre. Et on se rend compte que quand on prend ces décisions basées là-dessus, on développe une économie qui est beaucoup plus résiliente, qui est beaucoup moins dépendante au pétrole, qui est beaucoup plus sobre, qui est beaucoup plus locale, qui est beaucoup plus dans la coopération que dans l'extraction. Voilà.
Et est-ce que vous, toi ou quelqu'un de ce mouvement, vous avez quand même des rendez-vous avec Bercy? Est-ce que vous avez des droits d'écoute? Parce que voilà, dans ma naïveté, peut-être mon jeune âge utopiste, je me dis ils ont tout intérêt à vous rencontrer, tu vois. Leur but n'est pas de tous nous laisser dans la misère, tu vois. et donc, si jamais ils n'ont pas les compétences, les connaissances pour mettre en place un système qui veillerait plus à notre bien-être plutôt qu'à juste notre porte-monnaie, ou en tout cas le porte-monnaie de quelques-uns, ben voilà, ils auraient tout intérêt à vous écouter.
Alors aujourd'hui, ils nous écoutent. Donc le fait que j'ai pris moi notamment la tête de ce mouvement qui représente aujourd'hui plus de 25 000 dirigeants de la transition écologique et sociale, notre but c'est de créer une alternative au MEDEF. Voilà, d'un côté, je voulais changer le système financier, je veux changer les organisations patronales, c'est des missions assez
il faut avoir de l'ambition.
C'est folle, mais
il faut avoir de l'ambition.
Mais bon, au final, on est en train d'y arriver parce que aujourd'hui, Bercy, le cabinet du Premier ministre Matignon et beaucoup d'organisations régulatrices ou internationales aujourd'hui nous invite, je sais pas, on faisait partie du CNR par exemple, le Conseil national de refondation sur les sujets sociaux et productifs. Donc aujourd'hui on nous pose des questions, on nous questionne, on nous demande nos retours. Là il y a une grosse loi sur la réindustrialisation verte, on participe, on donne des idées sur le fait qu'il faut changer la fiscalité, qu'il faut changer l'investissement, qu'il faut refondre globalement la boussole, que le budget d'État soit lié à des objectifs écologiques et sociaux, que c'est le meilleur moyen de réorienter l'économie, les politiques publiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est consulté, mais il n'y a pas d'obligation de nous écouter.
Mais c'est comme le problème de toutes les COP, etc. C'est de l'image, en fait, presque.
Bah voilà, on a l'impression qu'on fait c'est un peu d'image et c'est beaucoup d'éducation. Voilà, on les éduque, et c'est bien, c'est de la formation limite. Maintenant, nous, notre but, c'est qu'à la table des négociations, donc là où il y a le MEDEF, qui est une grosse organisation patronale qui influence beaucoup les décisions économiques, où on a les syndicats salariés, etc., bah qu'il y ait une organisation de patrons révolutionnaires, quoi, entre guillemets, enfin voilà, d'entreprises qui... Pour eux, l'entreprise, le but, c'est de répondre à l'intérêt général et non pas qui ne considèrent pas l'entreprise comme neutre, qui veulent vraiment mesurer les impacts que ça peut avoir sur les individus, parce que l'économie néolibérale, je dis souvent, mais j'aime bien toujours le répéter quand même, parce qu'on a toujours l'impression que si on est libéral, on est pro-économie, si on est progressiste ou anticapitaliste, on est anti-économie. Moi, je suis pro-économie, progressiste. Je considère que les libéraux sont anti-économie parce que depuis les années 80, le libéralisme économique, c'est lui qui nous a fait perdre 1 800 000 emplois par les délocalisations, par tout ça. C'est pas l'économie progressiste. Hein. Mmh. Donc voilà, pour moi, cette économie-là, elle redore l'économie et les lettres de noblesse de l'économie.
Hyper intéressant. Écoute, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi. J'ai vu qu'on te qualifiait, ou tu te qualifiais parfois d'éco-féministe. Ça fait longtemps que je souhaite aborder le sujet sur le podcast. C'est un sujet que moi-même, j'ai envie de creuser. Est-ce que tu pourrais nous présenter cet intérêt pour l'écoféminisme et toi, ce que tu en as retiré?
Absolument. D'ailleurs, j'écris un livre en ce moment sur l'économie écoféministe.
Trop bien.
Donc justement, c'est pour moi un peu l'aboutissement de tout ce travail. Mon engagement, il vient de mon féminisme. Il vient du fait que quand j'étais jeune et que je posais des questions en cours de Talmud Torah, on me faisait vite comprendre que j'étais une femme et que c'était pas à moi d'aller étudier les textes. Du fait que dans l'espace politique, j'ai toujours vu que c'était essentiellement des hommes. Dans tous les espaces de pouvoir, qu'aujourd'hui, ils étaient décidés, au-delà d'être représentés par des hommes, ils étaient décidés, forgés, construits par des hommes. Le plus souvent blanc, le plus souvent de classe plutôt aisée, très privilégiée, qui n'a pas nécessairement intérêt à déstabiliser le système. Et donc l'écoféminisme, je l'ai connu par Vandana Shiva quand j'étais en Inde, il y a 10 ans. Vandana Shiva, qui est pour moi la penseuse écoféministe de base, qui est vraiment la référence, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, elle a un prisme très économique à son écoféminisme, comme moi, donc plutôt liée sur le secteur de l'agriculture, elle, en l'occurrence. Donc Vandana Shiva, une penseuse écoféministe qui analyse le lien entre la destruction de l'homme, de la nature, avec la violence patriarcale, donc de l'homme sur la femme, et colonialiste aussi, donc de l'homme blanc sur l'homme de couleur, notamment. Donc elle fait le lien vraiment entre lutte contre l'extractivisme, c'est-à-dire d'extraire les ressources, la nature, détruire les personnes, etc. Lutte pour la représentation des femmes et des personnes les plus minorisées. Et également spiritualité. Donc elle est quand même très spirituelle, c'est un peu une héritière de Gandhi, mais féministe, heureusement. voilà. Parce que Gandhi, il est plein de bons côtés, mais aussi des côtés pas terribles. Donc, en tout cas, elle, voilà, et spiritualité, donc être capable de réconcilier, finalement, notre rapport à la nature et au vivant. Et donc, moi, je suis vraiment de cette tradition-là. Elle, son terrain de jeu, c'était l'agriculture. Mon terrain de jeu, c'est la finance. Mais c'est pareil, en fait. La finance, comme l'agriculture, notamment les pesticides, elle lutte contre le développement des pesticides. Les pesticides, je ne sais pas si tu le sais, mais ça a été l'inventeur des pesticides. C'est l'inventeur, ça vient des gaz qui ont permis l'extermination des juifs dans les camps de concentration. Et en fait, la finance, il y a pas mal de passés très sombres aussi. À l'émergence de la finance. Donc on peut voir l'émergence de la finance dans l'extraction, dans la spéculation des matières premières qui ont affamé une partie de la population, mais même notamment tout le secteur du surendettement, de l'assurance, etc., a aussi connu une très très forte croissance pendant les économies de guerre, et notamment pendant la Shoah et tout. Donc c'est pas que lié, parce que la finance, ses impacts vont au-delà. Bien au-delà de ça. Mais en tout cas, je trouve que son approche est très intéressante. Et c'est ça, l'écoféminisme, en fait, pour moi. Hein, parce que j'ai ce prisme-là. Après, il y a des écoféministes du quotidien, des écoféministes dans l'alimentation, des écoféministes dans la plus spirituelle. Moi, mon écoféminisme, il est d'analyser, en fait, effectivement, l'économie comme quelque chose qui a été construit par des hommes, pour des hommes, blanc, et qui en fait aujourd'hui n'arrive pas à se renouveler parce qu'il est empris d'un système de domination et de violence, et que c'est finalement ça qui va devoir être repensé davantage que le modèle économique. Tout ça, c'est le modèle économique, les indicateurs, tout ça, c'est ce qui arrive après.
C'est des conséquences.
Ouais. C'est des conséquences de la déconstruction, entre grandes guillemets, de ce système de domination et de violence qui détruit l'économie. Et la différence, je pense, entre l'écoféminisme et le féminisme qu'on voit dans beaucoup de dirigeantes, etc., c'est que moi, mon féminisme ne se limite pas à mettre des femmes dans des postes de pouvoir qui reproduit la construction sociale des hommes, et qui auront dû chasser le féminin d'elles, entre guillemets, pour pouvoir accéder à ces zones de pouvoir et finalement juste mettre des femmes dans des lieux d'hommes. Pour moi, l'écoféminisme, il réinvente le système. En fait, l'écoféminisme va tuer, enfin pas tuer, c'est un mauvais mot, mais l'écoféminisme va
repenser, transformer
effectivement tous les systèmes en prise de domination, donc que ce soit le système économique ou le système politique ou quel qu'il soit. Et puis ce qui est beau aussi dans l'écoféminisme, pour avoir une touche un peu plus spirituelle aussi, c'est que l'écoféminisme aussi, c'est très spirituel, c'est-à-dire que c'est aussi un moment de lutter contre le scientisme. Elle parle souvent, Vandana Shiva, de scientisme. C'est-à-dire, alors qu'elle est scientifique, justement. C'est-à-dire la science par-dessus tout. Mais la science de quoi ? Finalement, dans l'économie, c'est pareil. On vous bassine d'algorithmes, de machins, le chômage a repris, de courbes, etc. Mais en fait, si on fait preuve de rationalité économique, on se rend compte que non, on peut pas dire que l'économie fonctionne dans un pays dans lequel on a tant de millions de pauvreté, on n'est pas capable de faire face au réchauffement climatique, c'est du rationalisme. Donc lutter contre cette forme de scientificisation d'à peu près tout pour justifier des rapports de domination, c'est aussi un des rôles de l'écoféminisme et de retrouver une forme de rationalité anti-destructive, anti-extractiviste.
Et tu penses vraiment qu'on peut réussir à sortir d'un système de domination? Parce que, en fait, j'ai l'impression que malheureusement, c'est presque propre à l'être humain. Parce que ce n'est de Dieu que je le critique, hein, mais en fait, c'est quand même né. Il y a des siècles, voire des millénaires, il y avait certains hommes qui dirigeaient les tribus, il y avait en fait tout ce... J'ai l'impression que l'héritage est presque trop lourd, et que même si on arrivait à peut-être rééquilibrer, déjà ne serait-ce qu'arriver à la parité entre les hommes et les femmes, peut-être même que certaines femmes... Je sais pas si t'as vu le film Sans filtre, on en parlait dans l'épisode avec Gad Elmaleh, mais regarde-le.
Il a l'air incroyable. Regarde-le.
Il étudie et analyse les jeux de pouvoir dans notre société, vraiment bien, et justement chez les hommes comme chez les femmes, et en fait t'as l'impression que le pouvoir va mener presque nécessairement, statistiquement, à des abus de la part de quelques-uns ou quelques-unes.
Alors, moi j'ai une approche du féminin et masculin qui est pas sexuelle, hein, qui est construite,
qui
est genrée, parce que c'est objectif. Parce que, et d'ailleurs il y a une étude hyper intéressante, alors je retrouve plus l'autrice, faut que je la retrouve, mais qui analyse justement le comportement des garçons et des filles entre 0 et 6 ans, et qui se rend compte, qui analyse du coup qu'effectivement, le garçon construit socialement comme un garçon, la fille reconnue fille à la naissance, construite comme une fille, etc. À 4 ans, c'est là que se joue, entre 4 et 7 ans, c'est là que se joue la perte d'empathie pour le garçon, le fait de ne pas reconnaître ses sentiments publiquement, le fait de considérer la vulnérabilité, sa vulnérabilité, sa propre vulnérabilité comme une faiblesse, etc. Et c'est là, en parallèle, que se joue entre 4 et 7 ans le phénomène d'autocensure, le phénomène de care, de prise de soin, de rôle de la fille comme quelqu'un qui doit prendre soin, etc.
C'est pas la tyrannie du genre ?
C'est possible que ce soit
parce
ça.
Que j'ai lu des analyses similaires.
Georgia, non.
Ah non, alors là, c'était Marie, j'ai oublié le nom de famille, mais elle en parle aussi un peu dans la théorie du genre.
Ah, c'est
possible. Et en effet, en fait, c'est de la socialisation des pères. En fait, c'est ce qu'ils observent chez leurs petits copains à l'école, chez leurs petites copines. Enfin, voilà, c'est vraiment juste la façon dont on a d'éduquer, ouais, qui joue le plus grand rôle.
Exactement. Et donc, en fait, la manière dont fonctionne le système aujourd'hui vient de ça. Le fait de ne pas accepter la vulnérabilité, le fait de se construire et d'exister par une forme de violence. Et pareil, côté fille, côté femme, le fait de se représenter que dans un rôle de soin, de s'auto-censurer, de pas associer ce rôle de soin au pouvoir. Enfin, tout ça fait que, effectivement, aujourd'hui, on arrive dans une société dans laquelle, même si on mettait 50% de femmes, je pense, et il y a beaucoup d'études qui le montrent, et d'ailleurs, je le montre dans mon livre, que si elles suivent le parcours traditionnel des hommes, les mêmes représentations, bah, peut-être qu'il y aura des changements parce qu'elles auront été socialisées à l'origine comme étant plus des femmes. Donc il y aura peut-être des changements, il y en aura, mais ce ne sera pas une révolution.
Non.
Donc maintenant, la question, c'est comment on socialise
c'est ça, la vraie question.
Les personnes, pour que derrière, on ait un système qui ne soit pas un système qui ne se puisse fonctionner que par des rapports de domination pour pouvoir se stabiliser.
En fait, ce qui est très dur avec cette volonté, et je la soutiens, c'est que ça nécessite de remettre en question, et j'en parle pour le coup ça moi dans mon livre qui est beaucoup autour du genre, ça nécessite de remettre en question la définition de la féminité et de la virilité.
Absolument.
Ce qu'aujourd'hui, presque personne n'est prêt à faire, mais les femmes comme les hommes. C'est tellement rassurant de savoir comment se comporter, de savoir quoi croire, de savoir comment agir, de savoir à quoi aspirer, que en fait, je pense que pourquoi le fait de parler de genre et potentiellement d'éducation non genrée cristallise autant de débats, parce que moi je suis assez fascinée, je me demande mais pourquoi est-ce que les parents veulent à ce point-là genrer l'éducation de leurs enfants ? Enfin, ça dit quand même quelque chose, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est extrêmement rassurant de se dire que son enfant va suivre des traces, un moule, et bon, très certainement qu'il ne veut pas qu'il soit différent parce que la différence fait peur, tu vois. Mais c'est vrai que la personne qui arrivera à proposer une éducation non genrée qui ne fait pas peur aux parents, vraiment, je serai là pour l'applaudir et la recevoir sur InPower.
Non, c'est clair. Mais tout est binaire dans la société, hein. Enfin, la binarité, c'est quand même
L'univers est binaire en même temps.
L'univers est binaire, je ne sais pas.
Bah, en fait, moi, c'est pour le coup, enfin, Dieu sait que je ne soutiens pas la binarité dans le genre, plus rare, tu vois, hein, mais
plus rare,
pour discuter avec, pour avoir discuté avec pas mal de personnes justement issues du monde spirituel, ils vont te dire, bah, il y a le oui, il y a le non, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune. Mais bon, je pense qu'au final, tu peux aussi prendre des contre-exemples qui montrent que tu n'as pas que cette dualité-là. Donc oui, le monde est peut-être dual, pas forcément binaire en fait.
Tout à fait, effectivement. Après, moi, je suis pas de ces spiritualités-là, donc c'est pour ça que je le perçois moins. Moi, pour le coup, il y a plutôt un grand tout, ça veut dire par rapport auquel il faut être extrêmement modeste. Et puis ensuite, il y a des individus avec des rôles de responsabilité, etc. Donc, j'avoue que c'est peut-être pour ça que c'est pas trop ma culture et le fait que moi, personnellement, j'ai l'impression d'être socialisée un peu de deux manières différentes. Je pense par les maths aussi.
D'accord.
J'ai été socialisée comme une fille assez jeune, parce que, mais en même temps avec une mère assez particulière, qui faisait un peu le rôle de l'homme et de la femme. Je pense que c'est aussi c'est très, très lié à ma culture où les femmes faisaient tout. la culture maghrébine, etc., où les hommes faisaient pas grand chose, les femmes faisaient tout. Et elles travaillaient et elles s'occupaient de la maison. Il y avait ce truc un peu, donc du coup, tu dois avoir les deux rôles. Et les maths aussi ont fait que j'étais dans des univers très masculins toute ma vie. Et j'ai pas été mis de côté de ces univers scientifiques parce que j'étais plus forte en maths. Et donc, je pense que la socialisation que j'ai eue, elle était un peu perturbante, mais en même temps aussi très féminine aussi, très, très, très dans le soin, parce que ça fait partie de ma culture très fortement. Et en même temps, très, très ultra rationnelle, comme ça, qui fait que je vois très bien comment on peut imaginer quelque chose de moins dual.
C'est intéressant parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'au final, l'éducation genrée est presque plus une question de culture que de sexe.
Absolument.
En fait, c'est vrai que c'est culturellement, au final, que beaucoup d'identités se construisent aussi dans le genre. Et c'est ça qui va être, au final, très difficile à dépasser.
Tout à fait.
Parce que, comme c'est identitaire, les parents vont la transmettre à leurs enfants, quoi.
Mais c'est très intéressant, la question de la culture. Parce que moi, je sais que tant de cultures maghrébines, juives... Enfin, je pense que c'est plus ma culture maghrébine là, qui apparaît. Par rapport aux femmes, notamment blanches françaises, je me suis toujours trouvée trop... entreprenante, j'ai l'impression de prendre trop de place, comme si j'étais comme un garçon en fait, et qu'elles étaient toutes, elles avaient été éduquées, plus socialisées dans effectivement pas faire d'impair, plus douce, etc. Et du coup c'est très marrant en fait de voir que en fait tout se joue à ce niveau-là. Et je comprends pas pourquoi les parents ont peur de dégenrer l'éducation à partir du moment où je pense que ça va libérer tellement de jeunes et que l'essentiel de nos complexes, de nos problèmes de rapport au monde sont liés
à
ce rôle-là et
à
ce stéréotype-là.
Ouais,
donc,
tout à fait.
Et c'est Olivia Gonzalez qui dit le mythe de la virilité enferme les hommes eux-mêmes. Donc,
tout à fait.
Et même Gisèle Halimi aussi, pareil, qui dit que lutter contre les stéréotypes de genre, c'est libérer les hommes de leur propre virilité avant toute chose. Donc...
Ouais, ouais, mais ils ne veulent pas l'entendre pour l'instant. Après, je pense que y a une petite révolution qui a lieu quand même aux États-Unis autour de la masculinité. Je la suis un peu de loin.
Absolument.
Et je me dis, bon, a priori, ce qui part des États-Unis arrive forcément à un moment donné en France. Mais oui, en fait, c'est... Je pense qu'en fait, il faut peut-être réinventer. C'est peut-être l'éducation positive au final. Je ne m'y connais pas assez vu que je n'ai pas d'enfant. Mais c'est peut-être au final ça qui va nous permettre d'éduquer des enfants plus que absolument. Des filles ou des garçons, absolument. Selon des principes qui placent le bien-être de l'enfant avant tout.
Absolument.
Et aussi, là aussi, peut-être dépasser des schémas culturels où parfois l'enfant, enfin Gisèle Halimi justement dans son livre, dans son autobiographie, elle revient sur le fait que comme elle était donc femme marocaine avec deux frères, sa mère lui disait tout le temps de débarrasser l'assiette de ses frères, enfin de faire toutes les tâches pour eux, et en fait à 8 ans elle a fait une grève de la faim parce qu'elle a dit c'est fini, j'en ai marre, il n'y a aucune raison que je débarrasse l'assiette de mes frères, et elle a fini par obtenir tu vois raison, mais peut-être que si du coup on se fie à des principes plus d'un côté, est-ce que c'est de la science ou pas ? Tu vois, tu parlais de scientisme ou de scientification de la société. D'un autre côté, je me dis, s'il y a des études qui sont menées sur ce qui fait du bien aux enfants, sur ce qu'il faut éviter, parce que par exemple, on sait que la punition, ça ne sert à rien. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Donc voilà, peut-être que si on a quelque chose sur lequel se reposer pour se rassurer aussi, pour se dire en fait, ça va faire du bien à mon enfant, on arrivera à dépasser les travers actuels de l'éducation.
Absolument. Et pour ça, il faut que notre système lui-même, il ne soit pas punitif, il ne soit pas genré, il ne soit pas binaire. Et c'est pour ça qu'il faut changer que le rôle politique qu'on a aujourd'hui maintenant en tant que femme convaincue, militante, etc., c'est de changer le système pour permettre que cette éducation, elle, soit possible. Parce qu'en fait, tout se passe à l'école, tout se passe dans la société. Mmh. Donc pour ça, il faut que la société change.
Ouais. J'ai relevé aussi, je crois que c'est un chapitre de ton livre qui s'appelle « Il n'y a pas de Louvre à Wall Street ». J'ai vachement aimé. Comment est-ce que toi, tu l'as observé? Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans ton milieu, cette différence de par ton genre?
Ah oui, absolument. Moi, ça me paraît, en fait, ce qui paraît rationnel à beaucoup d'hommes dans le milieu financier, moi, me paraît complètement irrationnel et vice-versa. Ce qui me paraît extrêmement rationnel leur paraît complètement irrationnel. Et je pense que c'est Mohamed Younous, d'ailleurs, qui dit ça. C'est quand on a l'innocence et la non-connaissance d'un système, c'est là qu'on est capable de le réinventer.
Tout à fait.
Qu'en tant que femme de 22 ans, je veuille travailler dans le secteur financier, ce qui a fait que je me suis autorisée à penser la finance comme je la pense aujourd'hui. Donc oui, moi, j'analyse réellement. Donc il y a ce point de vue très croissantiste, hein, je ne vais pas faire le geste, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui rassure. Non, mais c'est vrai, ça rassure. Hein. Il y a un truc comme ça, wow, ouais. ça monte vite, quoi. Et voilà, après, on sait, hein, Wall Street, la drogue, on sait hein, que de toute façon, cet univers-là, il s'est construit dans une forme de frénésie, de virilisme, etc.
Et c'est presque, je trouve, le symbole, enfin l'épicentre de la virilité Wall Street. Et d'ailleurs, on le glamourise un peu. Enfin, ouais, alors, j'ai pas vu moi le film.
Le Louvre Street.
Non, je l'ai pas vu.
Ah ouais, bah il est très parlant.
Bah, ça finit bien ou pas?
Non.
Non, ok. Bon,
non,
au moins.
Il s'est autodétruit.
D'accord. Bon, bah, au moins, ça montre ça, tu vois. Mais parce que moi, l'extérieur, j'avais l'impression que, bon, déjà, tu mets DiCaprio dans un premier rôle. Déjà, ça glamourise le métier, tu vois.
Ouais, mais justement, il est immonde à la fin.
Ah, d'accord.
Ouais, on n'a pas du tout envie de lui ressembler.
Ok. Ouais. Je me suis dit, en fait, c'est un discours que j'ai beaucoup, quoi. La responsabilité des imaginaires qu'on crée, que ce soit dans les séries, dans les films, dans les livres, crée ensuite la désirabilité. D'un rôle. Donc en fait, tous les mecs voulaient devenir trader à un moment parce que c'était glamourisé.
Bah, tout à fait. Mais là, c'est le secteur, effectivement, le secteur financier, je trouve pas du tout glamourisé aujourd'hui. Bah, déjà depuis la crise, en fait, il n'est plus dans les récits. Avant, ça l'était. Hein, le businessman financier, je pense que tout le monde voulait le ressembler et puis gagner beaucoup d'argent. C'était un peu le rêve américain, quoi. Le businessman financier, aujourd'hui, plus personne ne veut lui ressembler. D'ailleurs, les traders ne peuvent plus faire grand-chose. Maintenant, la question, c'est ces principes quand même. Qui ont animé les salles de marché pendant longtemps, qui est le fait de faire un maximum de profit le plus rapidement possible sans te soucier de l'impact que ta ligne de code va avoir sur l'économie réelle. C'est ça le gros problème. C'est ce côté irrationnel de la finance qu'il faut partout en fait déconstruire, qui fait que la finance aujourd'hui, elle n'est pas liée. Enfin, quand ils faisaient des opérations sur les marchés, pour eux, ça n'avait pas d'impact. Pour eux, ça faisait un peu beaucoup d'argent à un moment et une grosse crise le lendemain. Mais en fait, toutes ces opérations-là, elles ont eu des impacts concrets sur des entreprises, sur l'emploi, sur les matières premières, elles ont même créé des famines, je veux dire. Donc, elles ont même créé des chocs politiques. Donc, c'est ça, en fait, le côté irrationnel qui, pour moi, me semble complètement absurde. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je ne comprends pas quelque chose, cette chose ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Je considère que si on n'est pas capable de m'expliquer, ça ne fonctionne pas. Alors qu'un truc très simple, que d'investir dans telle boîte qui produit des énergies renouvelables, pour moi, c'est simple, rationnel. Mmh. Et bah pour un financier, c'est n'importe quoi, super risqué. Un particulier ne devrait pas investir dedans. Et voilà. Et c'est ça qui est genré aujourd'hui encore dans ce système.
Ouais, genré et puis stigmatisé et à l'encontre de ce qu'on a appris. Et les gens ont beaucoup de mal à remettre en question leur savoir, leurs croyances. C'est peut-être aussi faire preuve de plus d'humilité.
Bah oui.
Dans ce que vous avez apporté, la nouvelle génération. Mmh. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Comment est-ce que tu progresses?
Ah, dans la vie?
Ouais, dans la vie, au travail, comme tu veux.
Comment je progresse? En lisant beaucoup, en doutant tout le temps. Par exemple, j'ai beaucoup, 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 beaucoup évolué sur ces questions de genre. Je connaissais pas grand-chose. Hein. Je me suis tapé tout Judith Butler. J'ai essayé vraiment de comprendre, en fait. Je le ressentais en moi parce que je me sentais tellement mal à l'aise dans cette construction de ce qu'une femme devait être, etc. Depuis toujours que c'était facile pour moi d'aborder ces sujets-là. Mais voilà, je lis beaucoup. J'écoute aussi beaucoup de gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Je me tourne vers mes amis, vers mes proches aussi, souvent pour savoir si je suis sur la bonne voie, etc. Donc je m'entoure aussi beaucoup. J'essaie de faire moins aussi. C'est ma manière de progresser en ce moment, par
trop
exemple.
Trop bien.
Et ça, c'est très, très difficile pour moi. Parce qu'en plus d'être... Je suis très hyperactive, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets en même temps, d'être suprastimulée intellectuellement pour me sentir en vie. Ouais. Et que je suis plus stimulée intellectuellement, je peux sombrer en deux minutes. Quoi.
Mais du coup, moi, franchement, c'est, je suis pareil que toi. Pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas juste à vivre ça?
À vivre ma hyperactivité, parce qu'elle me nuit, elle nuit à ma santé,
okay.
Elle nuit à mes santé, elle nuit à mes relations, et elle nuit à mon travail, en fait, je pense, parce qu'au final, c'est dans les moments les plus... Je pense que c'est la philo qui m'a beaucoup appris ça. La philo, le yoga, c'est basique, je suis désolée, mais c'est vrai, ça m'a énormément aidée, moi, le yoga, j'avais beaucoup de problèmes, tachycardie, etc., et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, ces deux choses-là m'ont permis d'apprendre à trouver de la force et de la puissance et de la activité dans des moments de calme et de réflexion et de contemplation et je pense que ces moments-là ils sont essentiels et même pour stimuler des hyperactifs et j'ai trouvé en fait de la stimulation intellectuelle là-dedans. Au final je ne fais pas rien, je ne sais pas procrastiner, mais en fait dans une forme de contemplation, de réflexion et quelque chose de plus doux, j'ai pu trouver en même encore plus de ressources intellectuelles et puis, on voit aussi simplement le dessin des hyperactifs. Hein. Souvent, à partir du moment où ils s'arrêtent, ils tombent. Et
ouais, ça, c'est vrai. Pas... Mais c'est dur, je trouve, ouais, de d'aller à l'encontre de notre nature pour prévenir un potentiel mal qui va arriver un jour. Tu vois.
La question, c'est est-ce que c'est notre nature ? Moi, c'est ce que ma psychanalyse de ces dernières années m'a permis. J'ai arrêté depuis 3 ans, mais j'en ai fait pendant 2 ans. M'a permis de comprendre. Je ne sais pas si c'est la société intellectuelle ou française qui nous a fait penser que nos névroses étaient constitutives de ce qu'on était, mais l'hyperactivité dans son point de vue négatif, ça veut dire d'être, de pas pouvoir tenir debout, de pas être un soutien aux autres, d'être constamment dans son propre cerveau et être très stimulé et du coup quand on s'arrête 5 minutes d'être déprimé, ça clairement c'est pas constitutif de ce qu'on est. Par contre, nos capacités à réfléchir, notre esprit critique, ça, c'est constitutif de ce qu'on est. Donc, il faut, faut faire un découplage, un écologiste, ça veut dire distinguer d'un côté notre esprit critique, notre volonté de nous informer, de créer des choses, etc. Et ce qu'on considère être comme une nature hyperactive qui, pour le coup, nous détruit.
Ça t'a appris quoi, la psychanalyse ?
Ça m'a appris déjà à me... À isoler la nervosité, l'angoisse. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Donc, la nervosité, l'angoisse, l'hyperactivité, pour moi, était constitutive de ce que j'étais. C'est ce qui me rendait brillante. Mmh. Voilà. Oui, c'est limite de la dramaturgie.
Ouais, je vois ce que tu
juive,
veux dire.
Juive, quoi. Enfin, vraiment, nous, on est construits avec ces modèles supra-anxieux, supra-intelligents. On se posait des questions tout le
presque
temps.
Presque le martyr de Baudelaire, quoi.
Ouais, non, mais vraiment, exactement. Et la psychanalyse, ça m'a permis d'isoler ça. En fait, non, l'angoisse, c'est ce qui plutôt nuit à une nature et à un intellect que lui, qui devrait être amené à se développer, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, l'essentiel de ce que ça m'a permis à faire et de considérer que. C'était OK d'avoir besoin d'aide aussi. Ça, je pense que c'est bien. J'ai toujours été supra-autonome. Je parle très peu de moi, de mes problèmes. Je suis d'extérieur. J'ai souvent l'air assez fermée, etc. Alors que je suis extrêmement généreuse. Et je pense que ça m'a aussi ouvert un petit peu. C'est OK. Et ça m'a fait dédramatiser aussi. Il m'a beaucoup aidé, mon psy. Mais après, je pense que ça dépend des psychanalystes.
Ah oui, c'est sûr.
Mais il m'a fait rigoler sur des trucs qui étaient absurdes. Qui me provoquait beaucoup d'angoisse et ça c'est de dédramatiser l'anxiété.
Ouais.
Et tu sais quand t'es angoissé t'as toujours l'impression que c'est toi-même dans ton toi alors qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus basique et généralisé l'anxiété. Et surtout très dans des phénomènes de société actuellement tu peux vraiment comparer tes anxiétés aux autres et te rendre compte qu'elles sont assez similaires.
Ouais.
Et c'est assez agréable de rationaliser ça.
Trop bien. Est-ce que du coup t'aurais un livre, tu nous as partagé quelques-uns, mais un livre, je sais pas, qui t'a plu récemment ou juste qui t'a marqué dans ta vie, que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent?
Je recommanderais du coup de lire Judith Butler, que ce soit son travail sur la non-violence ou sur le genre,
ouais.
Parce que les deux, moi c'était un peu mes icebreaking, comment je sais pas qu'on dit quand ton cerveau explose quoi.
J'ai déjà des eureka, tu vois.
Ouais, exactement. Du moment. Vraiment, franchement, cette pensée-là, c'est celle qui est la plus intéressante aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà,
Je trouve ça intéressant en fait de lire et ce terme va être exempt de toute subjectivité, des personnes assez radicales dans leur pensée.
Absolument.
Je trouve ça très intéressant parce que en fait, ils poussent la réflexion jusqu'au bout, quoi. Donc, qu'on soit d'accord ou non sur tout.
Absolument.
Ça pousse vraiment à se poser des questions.
Tout à fait. Donc ce travail, il est très intéressant. Après, si vous voulez un peu plus en savoir plus sur l'économie, lire des choses qui sont accessibles, après les travaux d'Éloi Laurent, c'est très intéressant, c'est très pédagogique.
C'est un de mes profs.
Ah voilà, Sciences Po. Ouais. Ah, tu fais quelle chance. Pour ça, c'est cool.
Ouais.
Pour ça, c'est cool, Sciences Po. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu d'écoles dans lesquelles on peut voir des économistes aussi progressistes enseigner. Les travaux de Bruno Latour aussi, ou Atterrir, etc. Moi, ça aussi, il m'a aussi beaucoup transcendé. Après, côté philosophie, moi, j'aime beaucoup la philosophie de Lévinas, mais je pense qu'il faut regarder des conférences et lire en parallèle, parce que c'est très, très dur à comprendre. Moi, j'ai du mal encore à lire complètement Lévinas, mais parce qu'il a réussi à porter mon éducation religieuse d'un point de vue universel. C'est-à-dire tous les principes de la responsabilité pour autrui, etc., tous les principes de l'éducation juive, il les a pensés au niveau universel. Et du coup, voilà, je conseille aussi de se rapprocher de cette théorie philosophique.
Trop bien. Mm-hmm. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ?
Ah. Bah, du coup, vu que tu veux parler d'écoféministe... Oui, mais en même temps, elle est anglaise. Enfin, elle parle anglais, mais bon, potentiellement, je sais pas, Vandana Shivasi. Hein. Je suis sûre qu'elle serait hyper intéressée. Elle fait beaucoup de formats un peu alternatifs maintenant. Moi, j'aimerais vraiment l'entendre à ton micro pour lui donner une dimension moins... Enfin, je l'ai entendu dans des podcasts féministes assez niche. Enfin, pas niche, mais assez engagé. Et peut-être que toi, tu touches plus de monde encore que les podcasts féministes dans lesquels je l'ai entendu. Donc, je trouverais ça génial de pouvoir populariser sa vision, je dirais, et en écoféministe en France. Après, c'est plus des académiques, je les trouve moins percutantes.
Ça peut être autre chose que l'écoféminisme, hein. Ça peut être
oui,
toi, vu que tu écoutes des podcasts.
Ouais.
Qui est-ce que tu as peut-être jamais entendu en podcast et t'aimerais bien connaître la vie, quoi.
Non, mais Éloi Laurent, ce serait intéressant de l'entendre en vérité, parce que... En fait, il y a des progressistes dans les personnes les plus, enfin un peu plus institutionnelles, un peu moins sur les réseaux, et c'est vrai que ce serait aussi intéressant d'aller creuser sur ce qui se cache réellement derrière leur manière de penser. Et après, est-ce que il faudrait pas aussi aller un peu challenger des gens de l'économie un peu traditionnelle, faire venir des profils un peu plus...
J'aimerais bien avoir Christine Lagarde.
Ah voilà, recevoir Christine Lagarde, ouais. Ça peut être intéressant.
Parce qu'en plus, je pense qu'elle est ouverte, tu vois.
Elle est très ouverte.
À la réflexion d'autres philosophies qui est peut-être sa philosophie de formation.
Absolument. Et puis dans les podcasts, même dans plusieurs interventions que j'ai entendues d'elle, elle dit, si c'était les Man Sisters, il n'y aurait pas eu ce problème.
Ah ouais, ouais. Big up.
Elle est un peu, non, mais elle est un peu féministe et tout. Elle est très libérale, elle est de formation économique assez classique, elle a un parcours très privilégié, etc. Mais c'est quand même une femme qui, franchement, si ce n'était pas elle en ce moment à la Banque Centrale, je ne sais pas si on aurait... ces avancées qu'on a actuellement, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu voilà, mais on a des grosses avancées quand même au niveau de la Banque Centrale et elle les porte. Après, il faudrait un soupçon de plus de radicalité, quoi.
Ouais.
Un petit truc peut-être qui viendrait du fait qu'elle a pas un parcours un petit peu moins privilégié pour la mettre un petit peu plus dans l'urgence. Après, elle fait de la diplomatie, c'est difficile, mais un peu plus dans l'urgence, c'est imposer un peu plus de trucs un peu radical. Voilà.
On lui demandera.
Génial.
Écoute, du coup, j'ai te posé la question signature du podcast. Ah. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est déjà dépasser ses propres injonctions. Je pense que franchement, finalement, je trouve que le truc qui m'a le plus marqué, moi, dans mes 3 dernières années en matière d'achievement... C'est très bizarre, mais c'est le fait que je ne me lisse plus les cheveux.
J'adore.
C'est vraiment.
Non, mais ça montre
ça paraît
le poids,
fou, hein.
Ça
non,
montre le poids des dictats féminins, quand même.
Je pense que, en par contre, pour moi, en tout cas, en l'occurrence, je reviens de très loin, quoi, en matière de lissage, de régime, de, etc.,
ah ouais.
Tout ça, d'image, en fait, de la femme, comme je disais, la femme blanche avec laquelle j'ai grandi, mince, blonde, etc. Et c'est vrai qu'avec les cheveux lisses, et ça fait très peu de temps. Maintenant que j'ai acquis une forme de notoriété, je me dis, bon, ça va pas me dévaloriser. Ça, c'est bon, je peux me prendre... Et c'est bizarre parce que maintenant, quand je me vois avec les cheveux lisses, j'ai l'impression de voir une autre personne, une étrangère, quoi. Et je pense que prendre le pouvoir de soi, c'est justement arriver à être qui on veut être, tout en acceptant qui on est aussi naturellement. Je fais quand même beaucoup de sport. J'irai jamais dans les dictats non plus de lutter contre l'esthétisme, parce que l'esthétisme, je trouve que c'est quelque chose aussi d'important, mais c'est plutôt la pluralité de ces esthétismes-là. et surtout se libérer du côté politique aussi de l'esthétisme. C'est surtout ça qui en fait nuit et bloque des parcours. Enfin, je pense que j'ai passé tellement de temps à ne pas aimer ce à quoi je ressemblais pendant longtemps et à vouloir me changer, faire des lissages, machin, etc., que j'aurais pu passer à faire autre chose, quoi.
Ouais, exactement. On peut mettre son énergie ailleurs quand on se rend compte qu'on est bien plus qu'un physique.
Voilà.
Écoute, merci beaucoup Eva, c'était hyper intéressant.
Merci.
Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Alors, j'ai mon compte Instagram où je publie pas mal de choses, Eva Sadoun. La vérité, c'est que moi, j'aime les formats longs. Donc, vous pouvez acheter mon livre, j'en sortirai un nouveau. Vous pouvez suivre tout ce que je fais. Après, si vous êtes sur LinkedIn, il y a aussi une jolie communauté qui suit. J'essaie de publier des textes de décryptage. C'est là que vous pouvez me suivre. Et puis, mes deux boîtes, si elles vous intéressent, lita.co, Rift, le mouvement Impact France.
Trop bien. Je mettrai tout ça dans les notes podcast. Et puis, j'espère à très vite.
À très vite. Merci à toi pour l'invitation.
J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode, alors n'hésitez pas à nous taguer en story @EvaSadoun et @MyBetterSelf et à envoyer un petit message à Eva si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.